Les amis, on est parti, nous sommes le dimanche 12 novembre, c'est l'heure de ce nouvel épisode de Road to 10 Million, il est 19h27 exactement, nous sommes partis pour une heure et demie, je ne sais pas encore, j'ai pas l'impression que mon plan soit très long cette semaine, donc je pense qu'on va revenir sur un peu les épisodes de base qui font autour d'une heure. Cette fois-ci, je vais arrêter de vous barber pendant deux heures à vous parler de sujets qui vous intéressent, j'allais pas dire qui vous intéressent pas, parce que en fait, tous les épisodes qui ont duré très longtemps, ont paradoxalement très bien fonctionné. C'est ceux qui ont été les plus écoutés, comme par exemple l'épisode sur HEC, ou le dernier, qui s'appelle, je sais plus combien d'astuces, combien j'en ai mis, 17, 14 astuces pour faire son premier million, qui est quasiment déjà l'épisode le plus écouté en une semaine. Donc, merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps à écouter mes bruits de bouche totalement déstructurés, avec quelques petites pépites parfois, quand j'ai des bonnes idées. Mais en tout cas, ça me touche énormément. Donc, je suis ravi que ça vous ait plu. Nous sommes de retour pour un épisode assez standard cette semaine. Donc, il va y avoir une partie actu, une partie pendule à l'heure. On va revenir sur les bonnes bases pour terminer l'année en force, puisqu'il nous reste 4 épisodes de Road to 10 Million avant la fin de l'année 2023. Et évidemment, on va faire un petit bilan pour voir si on a atteint les objectifs que je vous ai annoncés cette fois-ci en public. Je crois que ça devait être, du coup, si je fais bien mes calculs, il y a 5 épisodes, parce que ce sont des objectifs trimestriels. Donc, pas le temps de niaiser, on rentre tout de suite dans l'introduction de ce podcast qui se situe normalement au début, et faute d'avoir un jingle d'intro, elle sera manuelle, comme d'habitude. Bienvenue dans le podcast Road to 10 Million, je suis Théo Lyon, j'ai 26 ans, et je suis le fondateur de Koudak, mon agence Ads, qui aide les e-commerçants et les startups sur leur media buying, leur créa et leur tracking. Donc, en 3 ans et demi, notre entreprise a atteint plus de 350 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et plus de 55 salariés, j'ai regardé, c'est beaucoup plus que ça en fait, on a 64. Pas tous des CDI, il y a quelques free et des personnes en stage, etc. Mais on est, voilà, il y a 64 personnes qui travaillent pour Koudak. Forcément, vous imaginez que les chiffres d'affaires sont un petit peu plus haut que ce que je vous ai annoncé, mais ça n'est pas le sujet, pas cette semaine, ça sera pour la semaine d'après. Donc, vous avez compris que l'étape suivante de mon business, c'est de l'emmener à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui fait 833 euros par mois. Et donc, c'est ce challenge qui donne le nom au podcast. J'ai pour objectif de le faire avant novembre 2024. Donc, ce mois de novembre est extrêmement important et j'ai hâte de pouvoir vous donner les chiffres. D'abord, je vous donnerai ceux d'octobre, vous inquiétez pas, la semaine prochaine. Je le fais la semaine prochaine d'ailleurs parce que j'ai l'épisode de Road to 10 Million sur le trimestre précédent qui sort cette semaine. Donc, j'ai pas envie de faire un anachronisme et de vous donner directement le chiffre d'affaires du mois d'après. Donc, je vous laisserai le consommer sur YouTube. Je vais vous laisser une petite semaine puisque ça sort cette semaine et ensuite je vous le donnerai la semaine d'après. Donc, voilà. Pourquoi c'est important le mois de novembre? C'est parce que ça va donner le benchmark par rapport à l'année d'après. On va savoir, on a 12 mois pour faire x x. Je pense que ça sera autour de x2. Donc sur nos volumes, ça serait pas mal. Ça serait ambitieux, disons. Voilà, donc dans cette émission, je me sers de mes expériences personnelles, rencontres et lectures diverses pour vous apprendre comment atteindre le top 1% dans ce que vous faites. Et oui, c'est un petit peu plus large que juste faire grossir une agence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les trucs qui me permettent de devenir plus fort et de progresser. Donc tout ce que j'apprends, je vous le partage, avant parfois même de l'avoir appliqué de façon complète dans ma vie. Donc je vous donne le brouillon. En fait. Là, vous êtes dans ma tête. On va dire qu'on est entre nous. Tout ce qui se passe dans ce podcast parfois me donne des idées pour faire des vidéos YouTube, des posts LinkedIn, enfin des trucs beaucoup plus structurés que je dois me poser. Là, c'est vraiment les choses notées dans mon journal au fur et à mesure de la semaine. Donc merci beaucoup d'être avec moi et bienvenue dans l'épisode 21 de Road to 10 Million. Précédemment dans Road to 10 Million. Alors, écoutez, on sort d'un épisode extrêmement plébiscité par le public, et je vous en remercie, sur comment faire son premier million, qui était un titre bien putaclic, comme je vous l'avais annoncé, mais je suis content de la façon dont je l'ai traité, parce que vous avez compris que l'idée, c'était surtout de se poser la question, quel genre de personne, enfin, si tu devais créer une personne au hasard, enfin, tu prends une personne au hasard, putain, et voilà, j'arrive déjà plus à m'exprimer, je n'ai même pas l'excuse de l'heure, il est 19h30, je me suis bien organisé aujourd'hui, en plus, pour pouvoir le faire tôt. Bref, en gros, si tu devais construire la personne qui a le plus de chances de faire un million d'euros de chiffre d'affaires sur son entreprise, qu'est-ce que tu lui donnerais comme attribut? Étant donné qu'on n'a pas l'industrie précise, tu es obligé de donner un peu des qualités d'une personne. Donc, j'essaie de faire cet exercice intellectuel. Voilà, qu'est-ce qu'une personne qui a atteint un million d'euros de chiffre d'affaires a dû apprendre sur lui-même et les autres? Donc, je vous invite à aller le consommer si vous ne l'avez pas encore écouté. Mais comme vous êtes de fervents auditeurs de ce podcast, vous l'avez certainement déjà fait et écouté plusieurs fois, j'espère. Je sais pas, je suis peut-être le seul à écouter plusieurs fois les épisodes de podcast que j'aime bien. Il y a beaucoup d'épisodes du Raptor que j'ai écouté pas mal de fois. Pareil pour Modern Wisdom. vous me direz. Voilà. Donc, on avait parlé aussi un petit peu de quelques actualités. Donc là, je vous fais le récap de l'épisode d'il y a 2 semaines, hein, pour vous souvenir un petit peu où on en était. Notamment, nous avions annoncé le rachat et l'intégration dans le groupe Koudak de Standaricom, l'agence email de l'écosystème, menée par le cher Tom Beuglin, qui en a fait une vidéo sur YouTube pour annoncer les dessous de la collaboration. Donc je vous invite à aller la consommer. Tom Beuglin, T-O-M-B-O-E-G-L-I-N. Et donc, c'est la 5e et dernière business unit pour l'instant du groupe, avant que ça s'élargisse. Et on avait parlé, il me semble, des apprentissages de la Founders Retreat que j'avais fait avec mes 3 associés en Alsace. Nous avions mangé beaucoup de tartes flambées à Colmar. Voilà, et ça nous avait permis, après quelques bières, d'avoir des discussions très intéressantes dont je vous ai fait une petite synthèse il y a 2 semaines. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte, j'ai oublié de créditer un restaurant qu'on a adoré et de gens qui ont été extrêmement sympas avec nous et qui nous ont très bien reçus en tant que touristes que nous étions. Ça s'appelle chez Hansi, H-A-N-S-I. Si vous êtes près de Colmar, allez vous manger une petite tarte flambée au Munster parce que ça vaut le détour. Et je rigole même pas, hein, elle me manque là, j'y pense régulièrement. Au niveau des pendules, donc il y a 2 semaines, il y en avait 10, il me semble, de pendules. Globalement, les idées qu'il fallait retenir, c'est quoi ? J'avais fait un petit parallèle entre l'entrepreneuriat et les sports de haut niveau. Je vous ai expliqué comment marketer votre business via la construction d'une histoire autour de ce dernier. Et je vous ai fait un petit tuto sur comment apprendre des trucs, globalement, avec 3 points et un petit exemple d'un coach qui voulait apprendre le jujitsu et qui avait fail 3 fois de suite à essayer d'apprendre. Et la 4e fois, il a réussi à s'y tenir sur le long terme. Et c'est quelqu'un qui a fait du coup une synthèse de ce qu'il avait appris sur pourquoi est-ce qu'il pense que ça avait fonctionné la 4e et pas les 3 d'avant. Voilà, donc au menu de cet épisode, vous connaissez toujours, la structure est la même. Il y aura que 3 parties cette fois-ci, parce que normalement, il y a une section questions à la fin. J'ai pas d'excuses, j'ai oublié de mettre la story sur Instagram. Putain, je m'étais bien organisé. Bon, on peut pas tout penser, hein, d'accord ? Déjà, je l'ai enregistré tôt, il sera disponible avant minuit. Vous savez pas non plus avoir des questions en même temps. Donc, ça sera pour la semaine d'après. Désolé, pas de questions cette semaine, mais nous aurons quand même les 3 parties... que vous connaissez déjà désormais bien. Donc l'actualité de la semaine pour Koudak et mes actualités un peu perso, c'est la première section. La seconde section, c'est remettre les pendules à l'heure, vous connaissez bien. Et enfin, une petite section sur le meilleur de la semaine. Donc c'est ça, ce sont les meilleurs contenus que j'ai consommés cette semaine et que j'ai envie de vous partager. Commençons tout de suite avec la partie actu jingle. C'est pas du tout un jingle en fait, c'est un son que j'avais dans la tête. C'est Angela. Mais c'est pas parce que j'ai un micro que je vais commencer à chanter. Alors, par quoi s'est ouvert cette semaine ? Enfin, plutôt cet épisode de podcast. Parce qu'avant de le lancer, j'étais en train de consommer l'actualité. Je pense que j'en étais au 20e revisionnage du chaos de Benoît Saint-Denis, la high kick dans la tête de Matt Frivola. Donc, je suis très content que Benoît ait gagné son combat. Quelqu'un de très terrifiant et un style comme on ne connaît pas beaucoup, je pense que ça peut être un bon phénomène à l'UFC. Bref, je vous invite à aller suivre Benoît Saint-Denis, c'est un sportif super valeur, etc. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et on a aussi eu le droit à un petit triplé de Kylian ce week-end. Voilà, 3 buts. T'es pas content, triplé. Ça, c'est mon expression. C'est mon expression préférée de l'équipe de Mbappé. Pas content, triplé. Voilà, je fais la passe à mon coéquipier dans la profondeur. Il faudrait que je mette un cadre quand même. Faudra vraiment que je fasse du montage un jour sur cet épisode. Parce que ça, typiquement, normalement, tu ne gardes pas au montage. Et là, en fait, à chaque fois que je soupire, c'est quand j'hésite à recommencer. À recommencer l'enregistrement. Je ne l'ai pas fait, je l'ai fait une fois. Mais je l'ai fait au bout de 2 minutes. Je ne l'ai pas encore fait. Et parfois, j'hésite. Quand tu te lances dans une imitation d'Mbappé, c'est pas bon signe. Après seulement à peine 10 minutes. Podcast, ça annonce la couleur. Bref, parlons des vraies actualités. Donc, la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi, c'était il y a 2 semaines, mais ça a été publié là, du coup, ce vendredi. J'ai eu l'honneur de recevoir ce cher Cédric Doumbé, ce qui a bien un accent grave sur le « et », comme n'a pas manqué de me le rappeler son manager. Bisous David, si tu écoutes. Donc, c'est Cédric et Doumbé à la fin. Donc voilà, je l'ai reçu dans le cadre d'HEC Alumni. HEC Alumni, du coup, c'est l'association des anciens élèves d'HEC qui donne parfois des conférences, et notamment ils ont des très beaux locaux près de la place de l'Étoile. Je ne sais plus exactement ce que c'est l'adresse, mais franchement le lieu est magnifique. Donc on a eu l'occasion de, voilà, j'avais je crois enfin 60 places, pas beaucoup. Hein, entre... Non, j'avais 80 places dans la salle. C'est pas un amphithéâtre, c'est dans la salle. Et donc déjà, ces 80 places ont été remplies, je crois, en 3 minutes. Donc bon, pas très surprenant, vous allez me dire, Cédric, c'est normal qu'il remplisse ce faible nombre de places, mais c'était quand même assez surprenant. J'ai du coup élargi j'ai élargi 3 fois, je crois, le nombre de personnes totales, parce qu'on a anticipé du no-show. Et finalement, on était beaucoup plus que prévu, parce que tout le monde est venu. Moi, je leur disais, non, mais les gens, ils vont venir hein, pour Cédric. Non, mais t'inquiète, il y a toujours 50% de no-show. Il n'y a pas 50% de no-show, les potes. Là. Tout le monde était là. On a passé un super moment. Et donc, je suis très content du rendu de l'échange, même si on a un petit problème de son. C'est dommage, mais ça n'empêche pas l'interview d'être consommée. Donc c'est OK. Pour vous donner un petit peu les dessous de cette interview, donc c'est un truc que j'avais préparé quand même depuis pas mal de temps. Notamment mon intro, qui d'ailleurs, l'enregistrement ne rend pas très fluide. J'ai un peu buggé dessus. Et je pense que la prochaine fois, je ne prendrai pas un téléphone si pour la faire. Je trouve ça chelou, quelqu'un qui lit son téléphone. Donc, lesson learned. Mais j'étais pas mal sous pression, en fait. Enfin, je m'étais mis la pression tout seul pour cet entretien. Parce que j'avais envie de bien faire et surtout de pas lui faire redire des trucs qu'il avait dit dans toutes les interviews. C'est un mec qui a fait beaucoup de médias. Donc, j'avais envie de quand même de bien relier ça au thème d'HEC, pas lui faire parler de trucs de tout et n'importe quoi. Mais si on a eu l'occasion quand même de donner à Internet ce qu'ils attendaient. Donc, avec notamment des petits trucs un peu sur l'affrontement avec Baki, etc. Je crois que c'est des running gags un peu, enfin, des sujets sur lesquels on relance beaucoup d'habitude, qui sont quand même arrivés dans une conférence HEC. Il était assez surpris d'ailleurs. Donc, super, finalement, la pression s'est pas trop vue d'extérieur. Le truc s'est passé sans accro et ça m'a fait comprendre aussi que je parlais beaucoup de ce réseau HEC. Aujourd'hui, cette interview ne serait jamais arrivée sans le réseau HEC. Donc, des gros bisous à Pascal, le président du club marketing, qui a fait arriver cet événement. Voilà, donc on a passé un très bon moment. Et oui, il s'est passé un truc très drôle aussi, c'est que pour son entrée, je n'étais pas au courant. Donc moi, je fais une petite introduction et ensuite Cédric rentre. Sauf que ce que Cédric, son manager, avait fait, c'est qu'ils avaient réenregistré le son « Jordan, t'es mort » avec mon prénom dedans. Donc moi, je n'étais pas au courant, donc je l'attendais. Comme ça, je fais « Mesdames et messieurs, Cédric Doumbé ». Et là, j'entends la musique. Et je fais bon, ok, il rentre avec sa musique, la même musique que celle qu'il a mise avec Jordan Zebo, ça va être stylé, ça va nous faire une bonne vidéo. Et après, j'entends Théo, t'es mort. Et même si c'est une blague, tu te chies un peu dessus en vrai. Et je crois que ça se voit à l'écran. Et t'es surpris. Donc ça m'a bien fait rire. Mais en tout cas, c'était. On a passé du coup un super échange après. On a eu l'occasion un peu du coup de. On a parlé une trentaine de minutes après avec Cédric dans la loge et c'était très très sympa. C'est un mec qui est très intéressant vraiment. Et qui comprend bien ce qu'il fait. Mais derrière, c'est pas juste le manager qui tire les ficelles. Il comprend très très bien ce qu'il fait. Et il est très authentique et naturel. Donc moi, j'ai bien aimé. Enfin, moi, j'aimais déjà beaucoup le personnage de Cédric. Vous savez, parfois, quand tu rencontres un peu les gens que tu admires, enfin, pas que tu admires, mais que tu connais et que tu kiffes bien sur Internet, eh bien, t'es un peu déçu. Là, c'était pas le cas. Donc voilà, super interview que je vous invite à aller regarder. Voilà. Semaine dernière, au niveau des actus, je me suis rendu aussi aux TikTok Awards. Donc rien à voir. Hein. Mais donc c'est quoi les TikTok Awards ? C'est la première fois que TikTok organisait un événement à Paris pour récompenser les meilleurs créateurs. Alors non, je n'étais pas nominé. Moi, j'étais là en tant qu'agence. J'étais invité par un autre camp manager. C'est pas mal. Ils ont loué un truc qui était près du Ritz, une grosse salle et tout. Et j'étais assez surpris du scale du truc parce que vous savez qu'en fait, les régies, là, les Meta, Snapchat et tout, etc., ils se font un peu la bataille pour avoir le budget publicitaire des clients. Et donc, il faut un peu montrer la grandeur, tu vois, sortir le grand sgeg, et c'est un concours de bites, en fait, hein, très simplement. Et là, TikTok en a mis une bonne, il faut être honnête, parce que l'événement était super. Et c'était son nom de famille, c'est Saint-Cernin, le présentateur, je crois que c'est Paul, peut-être Paul de Saint-Cernin, un truc comme ça, je ne suis pas sûr, que j'ai trouvé, qui était le présentateur de la soirée, et qui était honnêtement super drôle. Alors, il n'avait pas le bon public, parce que les gens étaient un peu endormis, et puis c'était corpo. Mais il ne s'est pas décomposé, il a fait que des blagues. Moi, j'étais mort de rire. Le mec, je l'ai trouvé trop, trop drôle. Donc, je ne connaissais pas ce gars. Enfin, je l'avais peut-être vu, je crois que je l'ai vu sur Canal+, un truc comme ça, il me semble. Je l'ai vu une ou deux fois dans des shorts. Mais le mec était vraiment très, très drôle. Bien humour, deux pieds dans le plat, j'adore. Donc, on a passé une très bonne soirée en compagnie de... Je l'ai passé en compagnie de Slick, toujours les mêmes amis. Hein. Putain, encore là. Adrien et Antoine, toujours dans les bons coups, forcément. Qui, eux, étaient nominés. Bon, malheureusement, ils n'ont pas gagné. Sur leur campagne avec Fitness Park, je crois. Mais on sait très bien que ce sont les meilleurs quand même. Bref, donc j'en ai profité pour prendre un petit post Insta que vous avez vu avec une petite blague sur les bruits de bouche, voilà, que vous avez apprécié, vous avez mis des petits likes. Ça fait plaisir quand même pour rentabiliser les événements, les petits trucs auxquels on m'invite. Donc, c'était un peu la seule façon de vous le faire vivre par procuration. Voilà. Bon, je continue de raconter ma vie. Partie 3 du racontage de vie dans les actus. On est toujours dans la prépa semi-marathon, les amis, mais là, on est à J-15, donc ça commence à se rapprocher très très fort. On est dans les semaines d'affûtage, donc je souffre, sa mère. Mais je suis content parce que j'ai bien tenu mon programme. Je suis entre 7 et 8 séances par semaine, donc je cours 4 fois et 3-4 séances de sport à la salle en plus. J'ai réussi à tenir et je vous ferai quand même aussi une petite update du challenge que je n'avais pas continué à documenter, qui était séché pour scaler. J'ai pas dit mon dernier mot, hein, parce que c'est pas parce que j'ai été flashé à 16,2%, je sais pas combien de pourcents de body fat la dernière fois, que c'était la réalité, ou alors que j'allais abandonner. De toute façon, pas le choix, hein. J'avais pas devenir gros parce que j'avais fail mon Dexascan. Donc je pense que je vais vous faire un scan en décembre pour le body fat et je vous ferai une petite update peut-être. Je peux vraiment parler. Je vais vraiment parler comme un influenceur fitness, un physique update après le semi. Voilà, quand je pourrais reprendre parce que je suis quand même beaucoup perdu en force, hein, depuis que je cours comme un porc là. Donc je pense que voilà, physiquement, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi la transformation visuelle, hein, quand même du corps. Donc je serai pas dans les meilleures conditions, mais j'ai quand même envie de prendre la photo pour qu'après peut-être je puisse la reprendre un mois et demi plus tard. Donc, le semi c'est dans 2 semaines, donc voilà, il me restera 5 semaines, je pense, pour bien regainer. Et je vais pas m'arrêter de courir, hein, vous inquiétez pas aussi, je pense que j'aurai d'autres challenges qui vont arriver après avril marathon, voilà. Mais on va quand même garder ses yeux sur le semi, c'est pas encore couru cette affaire. Voilà, quatrième actu de la semaine, donc c'est l'actu cette fois-ci, on va passer sur du pro, hein, promis les amis, hein. Nous avons reçu une star, une pépite dans l'équipe qui s'appelle Fabio Gauthier, qui nous rejoint en tant que Head of Sales. Alors, ceux qui suivent Koudak depuis longtemps savent qu'on a eu des expériences assez mitigées avec ce poste-là en particulier, hein, de Head of Sales, sur lesquels on n'a pas réussi à trouver les bonnes personnes par rapport à ce dont on avait besoin. Toujours, ça ne matchait pas trop avec la culture. On n'a pas une culture vraiment de chasseur, plus une culture de marketing, d'inbound, etc. Et donc, on a toujours eu du mal à faire fonctionner à faire rentrer la fonction sales dans Koudak, et notamment dans la culture de boîte. Et là, j'ai l'impression qu'on a trouvé la bonne personne. Alors après, on dit tout ça quand c'est le démarrage, mais là tous les feux sont ouverts, il a home run tous les entretiens avec tout le monde, et c'est un profil. Donc Fabio était l'ancien Head of Partnerships de Vivatech, donc c'est quelqu'un qui est très jeune mais qui a quand même un bagage très, très intéressant pour une boîte. Donc il nous a rejoint la semaine dernière, ça fait même un peu plus que ça, ça doit faire 10 jours. Et donc il s'intègre très bien pour l'instant dans l'équipe, et donc vous pourrez m'entendre pester contre Fabio si on ne fait pas les chiffres. Je rigole, et évidemment je vais continuer à être honnête, vous savez bien que c'est dans les valeurs de la boîte, mais je suis très content, voilà, d'avoir une recrue comme ça dans l'équipe, quelqu'un qui va pouvoir prendre l'ownership de la vente, parce que ça va me permettre de m'adonner à mon rôle principal, ce que j'adore le plus faire, c'est faire le CMO, Chief Marketing Officer. C'est ça que j'aime bien, donc pouvoir vous faire encore plus de contenu sur d'autres régies, etc. Parce qu'aujourd'hui, je gère comme une énorme partie. Enfin, je dois être présent, je suis impliqué dans pas mal de choses qui me prennent du temps autour des entrées de clients. Donc, tout ce qui est convertir les prospects en clients, et la présence au roadmap, etc. Ça me prend un peu de temps, j'aide dans la préparation, la répétition, etc. J'aide à bien structurer les trucs. Donc, bientôt, je vais avoir quelqu'un qui pourra me remplacer, normalement, sur cette partie-là, qui ensuite pourra prendre les rênes potentiellement des sales, enfin, de toutes les sales chez Koudak, parce que là, aujourd'hui, il s'occupe que de la partie ads et créa. Mais c'est prio. Le but, c'est qu'ils deviennent quand même le head of sales du groupe. Donc, je suis très content de recevoir Fabio. Ce sera un élément clé de la réussite et de l'atteinte de cet objectif des 10 millions. Je vous ferai des petits updates. Voilà. Donc, mes sujets de taf. Je trouve ça intéressant de vous dire sur quoi je travaille en ce moment, parce que c'est pas un truc que les. Enfin, déjà que les CEO partagent pas beaucoup de contenu, je trouve qu'ils disent rarement en plus ce sur quoi ils sont en train de travailler en ce moment avant d'avoir. Délivré des résultats là-dessus. Je peux vous dire, donc moi j'ai 3 sujets sur la table en ce moment. On est en train de reprendre le site internet, enfin d'engager le sujet. Donc il faut que je fasse en sorte que ce soit bien et modulaire pour qu'on puisse rajouter tous les nouveaux trucs qui vont arriver derrière, donc trouver le bon presta et tout. Voilà, on n'a pas encore trouvé la personne pour nous aider dessus. Donc, si jamais vous faites des sites internet sur Webflow, mettez-moi un truc sur Instagram, théo.le.lyon. Mais je pense qu'on aura choisi la personne d'ici une semaine. On a commencé à interroger les gens, donc c'est vraiment maintenant ou jamais. Je travaille toujours sur ce sujet dont je vous avais parlé il y a 2 semaines, qui est le account management. Donc, j'aurai l'occasion d'en reparler dans les pendules à l'heure, mais le account management, c'est qu'est-ce qui se passe pour un client une fois qu'il est onboardé chez Koudak, comment est-ce qu'on lui personnalise la relation et on lui fait vivre une expérience agréable. Donc pour ça, il faut qu'on mette en place des standards, qu'on s'assure qu'ils soient respectés et tout. Donc c'est moi qui mène ce sujet. C'est un sujet qui va prendre beaucoup de temps, je pense que j'en aurai jusqu'à la fin du trimestre. Donc, ça nous a, donc les premières steps qu'on a fait là-dessus, c'est diviser un petit peu le portefeuille client par rapport aux typologies, un petit peu donc dans quel secteur sont les clients, quel genre de relation on a avec, quels les types d'interlocuteurs et qu'est-ce qu'on doit faire comme traitement par rapport au client par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui ferait plaisir à quelqu'un. Je dis de la merde, même si c'est un head of growth, c'est quelqu'un qui va aimer recevoir du contenu un peu ciblé sur les US, des petites astuces, etc. Si c'est un CEO, souvent, il va s'en foutre. Donc, il faut qu'on arrive à trouver la bonne formule pour standardiser tout ça, que ce soit comme une usine, nickel, tu reçois la bonne interaction avec Kodak au bon moment. Et mon troisième sujet, c'est préparer la salle d'agence suivante, puisque voilà, hein, pour le tonaliser, c'est bon, c'est fait. La première, donc ça va scale, et il faut qu'on continue à étoffer l'attirail, l'écosystème, parce que pour atteindre ces 10 millions, il faut qu'on le fasse encore quelques fois. Diversifier les activités, donc j'en ai deux dans le pipe qui sont bien. Là, je vous garde ça un peu sous suspense, mais il y a deux deals un peu, ils sont pas bien avancés d'ailleurs, mais je les sens bien. Donc je vous parlerai du CA du mois d'octobre la semaine prochaine, pour que vous puissiez enjoy tranquillement, tout est mieux sur YouTube, je vous fais quand même un petit rappel parce que je me l'étais noté. Et au niveau des sorties vidéo, donc Cédric Doumbé, cette vidéo est sortie, a fait 50 000 vues sur ma chaîne YouTube quand même. Il l'a repostée sur la sienne, je crois qu'elle a pris 100 000 vues aussi. Il a fait un petit best-of. Donc je suis super content parce que ça va être notre vidéo la plus vue du trimestre et vous savez que j'ai dans mes KR, alors ça c'est vraiment pour les gens qui ont consommé le premier épisode là sur les objectifs, dans mes KR j'ai mon KR personnel, donc qui résolve personnel, j'ai un truc sur faire une vidéo qui fait plus de 100 000 vues, donc je pense que si c'est pas celle-là on n'arrivera pas à l'objectif, mais là elle a l'air d'avoir un petit peu restagné, je pense que notamment lié au fait qu'il l'ait réuploadé sur sa chaîne YouTube. Parce que quand il y a YouTube Cap qui a deux fois plus ou moins la même vidéo, bah il en nique une des deux. Et forcément, comme j'ai moins d'abonnés que Cédric, c'est la mienne. Mais après, bon, ça peut compenser avec le fait que je sois présent sur la chaîne de Cédric. Donc finalement, je pense qu'en termes de awareness, je m'y retrouve. Voilà pour ça. On a aussi sorti le TC donc avec les fondateurs de MIM, le sulfureux MIM, donc la plateforme qui permet de monétiser l'activité des créateurs de contenu, disons ça comme ça. Et donc voilà, ils ont pas mal de typologies de clients. Forcément, vous les connaissez peut-être parce qu'il y a des créateurs de charme dessus, disons, voire contenu pour adultes. Et c'est en fait une startup qui cartonne, qui fait plus de 100 millions de CA cette année. Donc c'était très intéressant de discuter avec les deux messieurs, donc Pierre et Gaspard. Voilà, on a aussi sorti la vidéo 7 vérités contre-intuitives sur l'entrepreneuriat. Et donc là, j'ai envie de vous interroger, les amis. Je suis assez surpris parce que cette vidéo, je l'ai faite pour faire un petit peu du top du tofu, donc du top of the funnel, pour pouvoir parler à pas mal de personnes. Donc je me suis dit, je vais faire un truc accessible, 7 points, ça c'est des trucs sur lesquels c'est facile de cliquer en fait. Et derrière, c'est une vidéo qui a pris 5000 vues, donc en fait qui a été dans la moyenne des vidéos que je sors. Hein. Mais je suis assez surpris que ça n'ait pas plus pris que ça. J'aimerais bien que vous me disiez pourquoi. Si vous avez maté cette vidéo, dites-le moi soit sur Instagram, soit en réponse, vous savez, il y a un petit sondage sur Spotify. Je vais vous demander ça dedans. Enfin, j'essaierai de m'en souvenir, putain, parce qu'à chaque fois, je m'engage sur des trucs et je ne les fais pas à la fin de l'épisode parce que je ne me rappelle plus. Vous savez quoi ? Je vais prendre un petit papier, je vais me le noter. Donc, sondage, cette vérité. Ok, voilà, comme ça, vous l'aurez. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis très intéressé, du coup, d'avoir vos feedbacks tant qu'on est ensemble. Hein, et j'en profite aussi. Donc, merci beaucoup. Et donc à venir cette semaine, nous allons sortir deux vidéos, donc Road to 10 Million qui cette fois-ci va sortir mercredi. Je sais que je l'ai déjà annoncé dans des épisodes précédents, mais il y a eu des petits chamboulements d'emploi du temps comme il y a toujours. Il y en aura peut-être aussi cette semaine, mais normalement RTTM c'est pour de bon, c'est mercredi. Et je vais aussi vous sortir une vidéo sur l'email marketing, un petit peu comme j'avais fait avec Discord, mais cette fois-ci donc pour vous présenter Tom notamment, le tout dans un contenu divertissant. Si vous êtes un e-commerçant, vidéo à ne pas rater. Voilà. Petit point sur les chiffres avant de passer au pendule à l'heure. Donc, commençons par les notes du podcast. Nous sommes à 359 notes sur Spotify. Merci beaucoup. C'est plus 26 par rapport à il y a deux semaines. Ça s'est un petit peu ralenti. Donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aller manifester votre satisfaction si jamais elle est présente. Si jamais vous écoutez et aimez ce podcast, allez mettre une petite note. 5 étoiles. 4 étoiles si vous n'êtes vraiment pas content. Mais vous savez qu'il n'y a qu'une seule note, 5 étoiles. Voilà. Et donc on est à 104 notes sur Apple Podcast. On était à 86 il y a deux semaines. C'est plus 18. Je pense qu'on n'arrivera pas, hein. ça commence à devenir assez clair, on n'arrivera pas aux 1000 notes avant la fin du trimestre, mais c'est pas pour autant qu'il faut relâcher l'intensité, je pense qu'on devrait le passer sur Q1 2024 si le podcast continue à se développer, parce que vous allez voir que les chiffres d'écoute, donc là l'objectif c'est de faire 150 000 écoutes d'ici la fin du trimestre au total sur le podcast, et donc là nous sommes à 64 300, On était à 53 600 il y a deux semaines, soit plus 10,7 écoutes. Et en fait, on fait la meilleure semaine de l'histoire du podcast la semaine dernière, avec 5 571 écoutes. Merci beaucoup. Voilà, c'est grandement lié à cet épisode sur le million, là, et l'épisode sur HEC, qui vous ont beaucoup plu. Donc, merci beaucoup de votre intérêt. Voilà, vous me faites extrêmement plaisir. Et dernière chose, donc ce petit point sur le classement, qui est la troisième chose qu'on traque. Donc vous savez, l'objectif là-dessus, c'est quoi ? C'est de faire d'être premier de la catégorie entrepreneuriat avant la fin de l'année. C'est très corsé, c'est le plus dur des trois objectifs. Mais je pense qu'on peut y arriver. Donc point classement aujourd'hui, donc au moment où j'enregistre ce podcast, on est 14e de la catégorie entrepreneuriat. Écoutez, je regarde jamais au bon moment de toute façon, parce que là où le classement est le plus haut, c'est souvent un jour après la sortie de l'épisode, où c'est là où on est 6, 7, 8 de la catégorie. Mais bon, je la prends. On va faire ça faire, hein. Je la prends à chaque fois avant d'enregistrer. Donc on est 14e. Mais si on est premier, vous inquiétez pas, je prendrai une capture d'écran et je la partagerai et je vous remercierai sur Instagram. Dernier point à vous préciser sur les chiffres avant de passer au point du laller. N'oubliez pas que vous pouvez tirer au sort pour participer à Enlève tes chaussures. Je ferai le prochain tirage au sort d'ici quelques semaines. Comment est-ce que vous participez ? C'est très simple, vous mettez une note. Si c'est sur Spotify, je vais la voir. Si c'est sur Apple Podcast, je vais la voir, votre note et votre commentaire. Je vais le voir et donc vous serez automatiquement inscrit pour être tiré au sort. Et si jamais c'est sur Spotify, vous mettez une note de 5 étoiles et vous m'envoyez la capture d'écran de votre note sur theo.le.lyon. Voilà, et si vous avez déjà mis une note, prenez une capture d'écran de la note que vous avez déjà envoyée et je vous noterai dans le tirage au sort. Ne vous inquiétez pas, même si je ne vous réponds pas, vous êtes inscrit. Je fais un check toujours et je note toutes ces personnes. Voilà, toc toc toc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre dans cette partie ? Je crois que c'est tout. Hein. C'est sûrement la fin. Voilà. Alors, je vais pouvoir prendre la première gorgée d'eau du podcast après 26 minutes. Et je m'étais mis un petit rappel. Faut que je commande mon Uber Eats. Hop là. Hop là. Sushi. Génial, on passe au pendule à l'heure, les amis. Putain, je suis vraiment chez ma daronne. Hein. Putain, j'ai perdu ma fiche. Elle est où ma fiche ? Ah, c'est pas sérieux ce podcast, c'est pas sérieux. Vous pensez que les clients de Kodak ou les prospects de Kodak qui écoutent ça, ils se disent quoi ? Ils se disent le mec est naturel, super, on a envie de travailler avec lui, ou ils se disent mais putain, mais c'est quoi ce tocard ? Jamais je lui confie mon budget. Eh bien, je ne sais pas, les amis. Mais dans tous les cas, je vais continuer à faire. Ce podcast, j'y prends beaucoup trop de plaisir. Passons à la première pendule. J'en ai 9 cette semaine à vous partager. Pendule numéro 1. Identifier un signal. Alors, qu'est-ce qu'un signal ? J'ai regardé un contenu que j'ai trouvé très intéressant là, il y a deux semaines, je crois. Enfin, dans les deux dernières semaines, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était. Où c'était une personne qui expliquait, donc je crois que c'était pendant un podcast, qu'un signal, c'est quelque chose qu'une personne fait malgré ce qu'elle dit. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé ça intéressant ? C'est parce qu'une grosse partie du travail d'un entrepreneur, c'est nouer des relations avec des gens, qu'elles soient des relations d'association, d'embauche ou de prestation. Simplement, il y en a plein d'autres aussi, des relations. Mais les relations qui vont être les plus importantes parmi celles qu'un entrepreneur va nouer, c'est toujours les relations qui vont se prolonger dans le temps. Donc, typiquement, celle avec un associé, tu vas être plus sélectif que pour choisir juste un prestataire qui va te faire une mission et ton site internet, par exemple. Même si tu vas pas utiliser les mêmes critères. Et par exemple, il y a un truc, quand tu t'associes à quelqu'un sur le long terme, c'est que tu es un petit peu obligé quand même de screener sur les valeurs. Parce que tu sais que si tu travailles avec la personne assez longtemps, et quand tu t'engages dans une aventure entrepreneuriale, soit que tu pars pour minimum 5 ans, sauf accident, et tu sais qu'il y a un moment où le naturel va revenir au galop. Et donc c'est très important de connaître les défauts d'une personne déjà, même si c'est compliqué de les screener avant, et c'est aussi très important de connaître ses valeurs, donc comment elle se comporte dans des situations que vous allez forcément rencontrer. Donc c'est là où c'est intéressant en fait de traiter du signal. Et donc le problème en fait malheureusement, c'est que pour découvrir les personnes, les paroles, ça coûte pas très cher. En fait, une personne peut dire à peu près n'importe quoi, vous savez pas quel niveau d'intégrité elle a avec elle-même, est-ce qu'elle se permet de faire des mensonges ou pas. Et je pense pas que d'ailleurs sur ce sujet, il y ait des gens qui disent la vérité ou des gens qui disent des mensonges, je pense que c'est toujours un degré. On dit tous des mini-mensonges par-ci par-là. Parce que parfois ça sert à rien. Je prends des exemples, hein. J'imagine que tu vas manger chez ta grand-mère et le gâteau il est dégueulasse et qu'elle te demande s'il est bon, il est bon le gâteau, tu n'as rien à gagner en fait à dire qu'il est dégueulasse le gâteau. Donc tu peux faire une demi-tête vite fait, ah ça va, et je préférais celui de la semaine dernière, je sais pas quoi, ce qui serait un, qui est toujours un mensonge, hein. voilà, il y a quand même une... Bref, donc je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Et donc, c'est toujours entre les deux, en fait, ce truc-là. Et ce qui est important, surtout, c'est de catégoriser un peu ton associé, où est-ce que tu vas le mettre dedans. Pas forcément sur ce sujet du mensonge ou de la vérité. Là-dessus, je vous conseille évidemment de prendre les gens qui ont plus haut niveau d'intégrité et d'honnêteté avec eux-mêmes et avec les autres. Mais je vous conseille surtout, pour identifier qui sont les gens de façon la plus fidèle à ce qu'ils sont vraiment derrière les paroles, qui sont culturellement influencés, et bien de regarder les signaux. Donc, je peux vous donner quelques petits exemples de signaux que je trouve assez utiles pour apprendre à connaître des gens. Ce qui est intéressant, c'est toujours de se focus sur les gens, sur ce que font les personnes quand elles pensent qu'on ne les juge pas. Et alors, c'est pas forcément... Parce que vous voyez, la citation de base, c'est « Que fait une personne quand elle pense qu'on ne la regarde pas ?» C'est pas exactement la même chose. Par exemple, quand tu passes un entretien avec quelqu'un et qu'après tu l'invites à manger, elle pense que pendant le déjeuner, c'est plus l'entretien. Elle pense pas qu'elle est en train de se faire évaluer. Donc, par exemple, elle va peut-être se permettre de mal parler à un serveur, comme elle fait d'habitude, que c'est quelque chose qu'elle ne se serait pas permis de dire ou quelque chose de semblable dans un entretien. Et donc, c'est plutôt quand une... En fait, juge les gens sur lesquels ils savent pas qu'ils sont... sur des choses sur lesquelles ils ne savent pas qu'ils sont jugés. Donc, regarde des choses sur lesquelles ils pensent que non, ils sont safe, tranquille. Donc, ça, c'est un très bon exemple. Je vous ai pris celui-là en premier parce que c'est le premier qui m'a sauté à l'esprit. Je ne m'associerai jamais de la vie entière avec quelqu'un qui parle mal à un serveur ou à une caissière, un truc comme ça. C'est pour moi, ça en dit très, 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 très long. Et vous voyez que tout ça, en fait, n'est pas un problème. Si jamais vous bossez sur le court terme avec quelqu'un, bah, la personne, elle saura se tenir. Elle se trouve, elle sera cool avec vous, elle va pas mal vous parler. Enfin... Mais si vous bossez avec quelqu'un sur le long terme, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça dit derrière tout ça ? C'est le mec qui pense que c'est OK de faire ça. Et donc forcément, il a un système de croyance qui l'a amené à cette conclusion. Et c'est surtout ce système de croyance qui va être problématique. Donc par exemple, une des croyances qui peut amener à se comporter comme ça, c'est de se dire, bon bah, mon statut, ma réussite dans la carrière, crée une hiérarchie, me place plus haut hiérarchiquement que certains autres humains. Donc une hiérarchie professionnelle entraîne une hiérarchie humaine. Et donc je ne suis pas obligé de respecter en fait quelqu'un qui n'a pas de succès dans sa carrière. Ça peut être une croyance. En tout cas, par exemple, ça, c'est une croyance qui pose problème. Et vous voyez que c'est très proche hein, de la croyance dont je vous parlais dans l'épisode sur HEC, de « j'ai fait HEC, du coup, je te suis supérieur, et donc je vais essayer de cacher que je fais HEC ». Ça ne marche pas, hein, ça ne dupe personne. Ceux qui savent voir derrière les actions, et ça, pour ça, c'est un exemple typique hein, de signal, une personne qui ne veut pas dire qu'elle a fait HEC. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Il y a aussi la façon dont les personnes se comportent au volant, ça marche assez bien. Est-ce que les gens ragent dans leur voiture ? Est-ce qu'ils insultent ? Comment est-ce qu'ils insultent ? Et est-ce qu'ils regrettent après d'avoir insulté ou pas ? Il y a d'autres choses qui marchent bien. Comment est-ce qu'une personne parle de son ancien employeur ? Même si c'est souvent abordé dans le cadre d'un entretien, cette question-là. Donc malheureusement, les gens savent qu'il ne faut pas mal parler d'un employeur. Mais ça marche aussi avec vos compagnons et compagnes. Tu sais, voilà, tu peux juger un peu la qualité d'une personne à comment est-ce qu'elle parle de ses partenaires passés, je trouve. Du moins, j'ai vu beaucoup de vérité. Voilà, donc ça, c'est des exemples de petits signaux. Après, il y a des signaux qui sont très faciles à identifier, c'est ceux que toi, tu as expérimenté. Donc, une version de la personne que tu étais avant peut-être de changer, ou une qualité que tu as toujours, un défaut que tu as toujours, et que tu sais reconnaître chez quelqu'un. Je vous prends des petits exemples. Moi, j'ai un radar exact à 99% sur les gens qui sont pas sûrs d'eux et qui écrivent sur LinkedIn. Je sais, en lisant un post, si la personne est à l'aise avec son opinion ou pas. Si elle est bien renseignée et si elle a confiance en elle. Et parce qu'il y a un signal que je vous donne, hein, qui est très facile à voir, et dont tu te rends compte quand tu as commencé à écrire des posts et que tu as été un petit peu malmené par des haters, etc. Il y a des gens qui ont percé des objections dans ce que tu disais, c'est les gens, ils écrivent leurs posts en se justifiant. Et ça se lit et ça se constate très très facilement. C'est les gens qui, en fait, quand ils écrivent, ils ont une petite voix dans leur tête qui est celle d'un hater qui va leur dire « Ah, mais en fait, tu dis ça, mais tu as oublié telle partie ». Et si je suis capable de l'identifier si précisément, c'est parce que je l'ai vécu. Donc, je vous conseille aussi voilà, de vous baser beaucoup sur vos vécus, des défauts que vous n'avez pas aimés chez vous et dont vous êtes capable d'identifier un symptôme. Essayez de l'identifier chez les gens, mais ça sera assez facile. Vous n'avez pas besoin d'un tuto pour le faire. Vous le verrez naturellement. C'est pour ça que souvent, quand quelqu'un vous traite d'arrogant, c'est qu'il l'est lui-même. C'est très facile de voir des signaux quand on l'est lui-même. Ou alors c'est qu'il n'est pas à l'aise avec lui-même. Enfin bref, on en a déjà parlé dans les fois d'avant. Qu'est-ce que je sais reconnaître aussi ? Oui, je sais reconnaître des gens qui ont de l'ego. Forcément, quand tu construis une boîte, tu construis un petit peu un ego en même temps. Donc, il y a un signe que j'ai vu chez les gens qui ont beaucoup d'ego, c'est-à-dire qui n'aiment pas avoir tort, je le vois vraiment comme ça, c'est les gens qui, dans une discussion, vont essayer de... ne peuvent pas supporter que tu penses qu'ils ont tort dans quelque chose. Donc, ils vont te corriger très, très vite. Quand ils ont dit un truc, et la personne en face de toi l'interprète mal ou le comprend mal, ils font « Ah non, 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 tiens, ils te coupent la parole pour dire « Ah non, c'est pas ça que je veux dire », et tout, etc. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas sur une personne qui a un ego présent. J'allais dire surdimensionné, mais en fait, ça dépend surdimensionné par rapport à quoi. Pour moi, c'est fine. Hein. Je bossais avec des gens qui ont de l'ego. C'est typiquement le défaut avec lequel je suis à l'aise. Donc, je le vois, mais ça ne me dérange pas, ce truc-là. Il y a aussi un autre truc que j'ai remarqué chez les gens. Bon, celui-là, il est facile à identifier. C'est les gens qui disent « Je suis quelqu'un de ». Je suis quelqu'un de très... Avec le fameux, là, le top du top, celui que je trouve magistral, c'est « Je suis quelqu'un de très humble ». Qui est en fait un... Comment on appelle une proposition qui s'invalide elle-même ? Quelqu'un de humble ne dirait pas qu'il est humble. Donc en fait, quand tu dis je suis quelqu'un de très humble, tu prouves juste que tu n'es pas humble. Voilà. Et ça marche avec pas mal d'autres choses, même quand il n'y a pas une faute logique dans la proposition. Soit quelqu'un qui va avoir tendance à dire oui, moi j'aime pas trop l'argent, tu sais, ce qui est important, c'est les relations humaines, ou je sais pas quoi. Et tout. Ils le disent pas comme ça. Les gens qui aiment bien les relations humaines, bon, soit ils en parlent pas, soit ils le disent pas comme ça. Tu vois, je suis quelqu'un de très. Toujours. En fait, vous imaginez la gueule de la personne qui dit ça. C'est un Parisien connard. Enfin, moi, peut-être. Moi, j'imagine un Parisien connard. Et je. Ouais. Ouais. Bref. Rien à rajouter là-dessus. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que le système d'entretien, donc professionnel, c'est très bien pour évaluer les compétences, mais c'est souvent assez foireux, en vrai, pour juger les gens. Ouais, donc, pour juger les gens, c'est pour ça que souvent, tu peux te faire une petite intuition sur eux. Et utiliser la période d'essai pour confirmer ou invalider ce truc-là. Voilà. Donc, identifier un signal, donc essayer de voir un petit peu derrière les paroles. Pendule numéro 2. Je voulais vous parler des 4 cadrans de la relation business. Donc, qu'est-ce que c'est faire grossir un business ? C'est très simple, c'est développer des relations avec tes prospects pour les faire devenir clients et les garder. C'est tout. Donc, ça fait que tu dois t'adresser à 2 types de personnes, des prospects et des clients, et de façon différente. Donc pour faire grossir une activité, en fait, finalement, ça a été ça, ça s'appelle pas un théorème, mais disons une petite simplification, un framework, j'ai pensé la semaine dernière, qui vaut ce qu'il vaut, hein, c'est mon brouillon, hein, tout ça, ce que je vous partage dans tous les cas, c'est qu'il n'y a que 4 façons de t'adresser à une relation business. Soit c'est un prospect, soit c'est un client, ça nous donne la première partie de la matrice, soit tu t'adresses à lui en one-on-one, ou alors en one-to-many. Je vous rappelle pas ce que veulent dire l'un et l'autre. Bon, j'ai déjà pris trop de temps, donc autant le rappeler. One to one, vous avez compris, un à un, donc relation directe. Et one to many, c'est par exemple je sais pas, un journal. Donc, tu t'écris un journal pour tous ses lecteurs et on s'adresse à one to many. Et finalement, ton travail pour avoir un business qui grossit naturellement de façon organique, peu importe ce que tu fais, c'est de craquer ces 4 cadrans. Donc le premier, c'est tout en haut, donc en haut à gauche. Donc quand tu t'adresses à un prospect en relation one to many. Donc ça s'appelle du marketing. Donc en gros, tu parles à tous tes prospects avec des campagnes de publicité. C'est un exemple parfait, ça. Donc c'est des gens qui ne sont pas clients chez toi, mais que tu vas t'adresser à la masse et qui va te permettre enfin, là, de toucher beaucoup de gens, mais de façon moins personnalisée. Donc, ça, c'est... Donc nous, c'est un truc qu'on a craqué très, très vite chez Kodak. En fait, on avait la relation one-to-many avec les prospects. On l'a craqué très, très vite et ça nous a porté pendant 2-3 ans avant qu'on ait à se poser sur le reste. La seconde, c'est les prospects en one-to-one. Donc ça, bah, c'est des sales. Très simple, quand tu as une personne, quand tu as un vendeur qui vend à quelqu'un, il vend toujours à une seule personne à la fois. Et donc, c'est complémentaire du one to many. Donc, nous, c'est un point sur lequel c'est moi qui l'ai fait au démarrage, donc ça nous a permis de grossir assez vite. Et c'est un point sur lequel on est en train de travailler. Je vous parlais beaucoup du travail qu'on faisait sur le roadmap. Ça fait partie de ce truc-là. Donc, tu dois craquer comment est-ce que tu t'adresses aux masses et comment est-ce que tu t'adresses aux particuliers une fois qu'il est sorti de la masse. Le troisième cadran, c'est quand tu t'adresses à tes clients en one to many. Donc, ça, le synonyme, c'est la com interne, par exemple, pour les agences. C'est un truc sur lequel nous, on n'est pas excellent, à parler à tous nos clients à la fois. Mais c'est un truc qui est très, très important parce que ce qui se passe après la signature d'un client est extrêmement important quand tu dois le garder sur le long terme. Et la com interne peut servir à beaucoup de choses. Donc, nous, c'est un sujet qu'on est en train de traiter là, sur lequel il faut qu'on progresse. Et enfin, le tout dernier de ce cadran, c'est quoi ? C'est quand tu t'adresses à tes clients en one-to-one. Et là, pour le coup, c'est un nom, ça s'appelle le account management. Donc, vous l'avez vu dans mes sujets de la semaine, je bosse dessus. Et j'aime beaucoup, en fait, ce petit framework parce qu'il te permet de savoir où sont tes failles dans ta relation client. Tu prends ton cadran et tu regardes, je suis bon dans quoi ? Est-ce que j'arrive à m'adresser aux masses ? Bien, je fais du bon marketing. est-ce que je suis bon sales, est-ce que ma com interne elle est nickel, et est-ce qu'il y a de l'account management, est-ce que ma démarche de account management, est-ce que je m'occupe personnellement de mes clients. Et là on va se rendre compte que par exemple il y a des sociétés en B2C par exemple qui ont des centaines de milliers de clients. Bah, comment est-ce que je fais pour avoir les clients one-on-one? Quel est l'intérêt? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça? Et si oui, quel est-il? Comment est-ce que je fais pour m'adresser? À qui je m'adresse? Est-ce que je m'adresse aux gens qui payent le plus cher, par exemple? Donc mes key accounts. Est-ce que je m'adresse aux gens qui peuvent m'apprendre des trucs pour aller lancer des nouveaux marchés? Et en fait, il y a toujours une variante, une application de ça qui permet de résoudre des challenges business. Donc nous, aujourd'hui, c'est tout ce qui va toucher aux clients. Donc clients one-to-many, clients one-to-one. Voilà. Donc évaluer votre business à l'aune de ces quatre cadrans. Peut-être que vous apprendrez les choses, peut-être pas. Mais j'espère que ça vous aura fait réfléchir. Pendule numéro 3. Je l'ai écrite en anglais, c'est choose your suck. Ça veut dire choisis dans quoi tu vas souffrir. Donc, récemment, j'ai publié pas mal de vidéos qui étaient, un peu plus clivantes que d'habitude. Clivant, c'est pas le bon mot, mais qui étaient plus sujets à discussion que d'habitude. Donc, typiquement, on a reçu Ismail, donc le Raptor, on a reçu les fondateurs de Mime et on a reçu Cédric Doumbé. C'est des gens dont j'adore les marques personnelles et des gens que j'aime bien aussi à titre perso, mais qui du coup clivent. Ils ont des gens qui les adorent, mais aussi des gens qui les détestent. Et forcément, comme le contenu est posté sur ma chaîne, bon bah et voilà, et forcément, par association, si tu es l'ami de mon ennemi et mon ennemi. Donc j'ai reçu une petite quantité voilà de commentaires, je vais dire haineux, mais voilà, ou des petits, enfin bref, tu prends des balles perdues quoi. Mais ça fait partie du jeu. C'est jamais agréable, même avec de la distance, hein, il faut être honnête. Hein, moi, je ne crois pas du tout d'ailleurs à tous les créateurs de contenu qui disent « je m'en fous » des commentaires. En fait, on a toujours quelque chose à foutre, mais dans une certaine mesure. Ce qui est important, encore une fois, c'est dans quelle mesure est-ce que tu en as vraiment quelque chose à foutre. Est-ce que ça te ruine une journée ou est-ce que ça te met mal 10 secondes? Est-ce que tu les dis, est-ce que tu les dis pas? Parce qu'il y a des gens qui choisissent de ne pas les lire. Donc ça, quand tu les dis pas, en fait, ce n'est pas que les commentaires ne t'atteignent pas, c'est que tu n'es pas capable de les lire. Donc c'est autre chose, c'est un sujet qui est plus profond qu'il n'y paraît, la gestion des commentaires, parce que vous savez, en fait peut-être, d'ailleurs c'est un truc, oui, je me souviens encore de quand j'avais pas de chaîne YouTube, et que je voyais un créateur de contenu parler des haters, et toi souvent quand tu mates la vidéo, tu t'es dit mais attends, on s'en branle, le mec il a eu un commentaire sur, je sais pas, il fait 100 000 vues, il a trois commentaires haineux, et le mec il en parle dans sa vidéo, ah ouais les haters, etc. et tout, et tu te dis mais qui sont les haters, qui sont-ils? Alors déjà première chose, le hater n'est pas ce qu'on pense, c'est pas un profil le hater, mais qui va être sur tout le monde. On a tous été le hater de quelqu'un à un moment et on se rend pas compte. Et c'est l'autre pan de ce dont je vais vous parler, de l'impact que ça fait sur un créateur. Parce que quand un créateur, ça crée, c'est dans la proposition, c'est dans le mot. Et quand ça crée, souvent ça crée. Quand tu vas sur YouTube, souvent tu crées avec ta propre. Tu t'engages ta gueule quoi. Et donc quand tu prends un commentaire, en fait tu le prends puissance 1000. Parce que ce qu'a critiqué la personne, c'est pas un travail, c'est pas comme quand tu reçois une note à l'école ou un truc comme ça, qui est déjà un truc assez personnel. T'as réussi ou pas ton test de maths? Non, le mec, il a critiqué ce qui est sorti de ta tête. Il a critiqué qui t'étais quasiment. Et donc, c'est pour ça que même une petite phrase, il peut y avoir 100 commentaires ouf, et une petite phrase qui t'attaque sur un truc, et encore plus quand c'est un truc auquel t'as déjà pensé, tu vois, où tu sais que t'es pas très allé sur cette chose-là, eh bien, ça peut te taper. Donc moi, j'ai la chance que je pense que je suis assez bas dans l'impact que ça a sur moi, mais je veux pas dire que ça me fait pas chier quand on reçoit des trucs négatifs. Mais je vois, en fait, moi, j'ai des amis créateurs que ça ronge, vraiment. C'est des trucs, ça a un impact déjà sur la ligne éditoriale. Ça veut dire qu'ils vont plus partager des trucs par peur de recevoir de la hate ou alors être un petit peu moins clivant ou parler de sujets dont ils parlent, donc qui les font un peu moins kiffer, mais où ils savent qu'ils ne vont pas recevoir de vagues de critiques. Et ça arrive aussi de façon assez latente. Hein. C'est-à-dire, parfois, tu ne te rends même pas compte que ta ligne édito, elle évolue, juste parce que tu n'es pas à l'aise avec toi-même. Et toc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, voilà. Donc j'ai des potes que ça ronge et que ça impacte à plein d'endroits différents en fait de leur vie. Donc par exemple, c'est des gens qui parlent tout le temps de leurs haters. Il y a j'ai beaucoup de haters en ce moment. Ils leur répondent en public. Ça, moi, je trouve que c'est un truc, c'est la pire erreur à faire. Hein. Vraiment, c'est se rouler dans la boue avec les cochons. Vous le savez. Les deux se salissent, mais il y en a qu'un seul qui aime ça. Donc vraiment, ne le faites pas. Et donc ça m'a fait réaliser que ce prix à payer, donc de recevoir un petit peu de critiques sur Internet, finalement, ça ne me fait pas grand-chose. Donc, ça m'a confirmé que j'étais au bon endroit, ce truc-là, ça m'a un peu rassuré. Et parce qu'inversement, il y a peut-être des choses qui peuvent vous paraître anodines, mais qui, pour moi, seraient bien plus dures à encaisser qu'un mauvais commentaire sur Internet. Petit exemple, un patron qui me parle mal, qui ne dit pas « s'il te plaît » dans une phrase, etc. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne passe pas, ça ne passe jamais. ça ne passera jamais. Je vais toujours avoir tendance à partir en couille, en fait, direct. À rentrer dans la confrontation, mais le frontal. Donc ça, c'est un truc, c'est un poids que je ne peux pas porter, mais que certaines autres personnes peuvent très bien porter. Hein. Je connais bien. Plein d'amis à qui ça arrive et qui font « Bon, c'est pas grave, une fois de temps en temps. » Non, ça, c'est mort, moi. Et donc, finalement, ce qui est important, c'est pas tant de... le poids, mais plutôt ton rapport avec le poids et la façon de le porter. Donc, au lieu de choisir une voie, ce que je te conseille plutôt, toi qui écoutes ce podcast, c'est de choisir un poids qui semble lourd pour les autres, mais léger pour toi. Et peut-être que tu as déjà identifié des choses, peut-être pas, auquel cas il faut te faire des expériences et essayer de soulever des poids différents, enfin aussi différents soient-ils. Mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que avoir des passions, ça marche bien, commencer par là. C'est un peu complémentaire à ce que je viens de vous dire. Quand tu es passionné de basket, ça te demande pas un poids, c'est une souffrance qui est moins grande de t'entraîner 7-8 fois par semaine ou 2 fois par jour. Je sais pas ce que c'est le rythme d'ailleurs d'un basketteur professionnel. Donc ce qui est intéressant, c'est surtout d'essayer d'évaluer sa vie. Je trouvais que c'était un framework que je trouvais cool. Selon les prix à payer, je vous en parle souvent de toute façon, cette notion-là, de pense au prix à payer, pas à la potentialité du gain. Qu'est-ce que tu dois sacrifier pour arriver à ce truc-là? Et donc essaie de choisir des choses. Si tu veux vraiment atteindre le top 1%, parce que le top 1%, c'est toujours par rapport. Pour qu'il y ait un top 1%, c'est qu'il faut qu'il y ait un bottom 99%. Donc il faut être meilleur que les autres. Donc pour être meilleur que les autres, il faut mieux porter la charge que les autres. Et c'est pas mal souvent d'utiliser le bagage que tu as créé, enfin qu'il soit inné ou pas d'ailleurs, mais que tu as créé ton éducation, tes relations, etc. Au moment où tu te lances dans quelque chose, c'est un constat honnête de quitter. Et de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai d'expérience? Quelle souffrance me fait moins mal que les autres? Et je vois que ça fait souffrir les gens. Eh bien, moi, je peux vous dire aussi, travailler toute la journée, ça me dérange pas. Aller courir sous la pluie, ça me dérange pas. Et je sais que ça serait très dur pour les autres, donc je suis très content d'avoir cette chose-là, ou sur laquelle j'espère bien avoir, bon, peut-être pas top 1%, mais atteindre des niveaux assez élevés, que ce soit dans le running ou l'entrepreneuriat, le sport, etc. Voilà. Donc, identifiez les choses que vous supportez mieux que les autres, et ensuite, laissez le temps faire la magie. Point du numéro 4. Est-ce que tu consommerais ton propre contenu? Bon, quand tu es un créateur de contenu, je ne sais pas d'ailleurs quelle part de l'audience a déjà créé de près ou de loin du contenu, que ce soit en écrit ou en vidéo. Vous êtes potentiellement toujours posé la même question, et moi je me la pose très souvent, c'est comment savoir si un contenu est bon. Après la publication d'une vidéo, c'est plus simple de regarder les analytics, mais avant de poster un truc, si vous avez déjà été dans cette situation, vous savez peut-être que c'est assez dur en fait de déterminer vraiment si ça va plaire à l'audience. Et tu développes un peu de flair avec le temps, tu sais identifier les bangers, donc typiquement quand j'appuie sur publier, c'est pas moi qui appuie d'ailleurs sur publier, sur la vidéo Cédric Doumbé, je sais que le truc va marcher. C'est zéro risque. Pareil sur LinkedIn, tu me demandes d'écrire un post et on me tire une balle si jamais il fait moins de 100 000 impressions, bah je le fais, je sais ce qu'il faut écrire. Après, bon, la question c'est est-ce que c'est un intérêt ou pas, mais ce qui est plus compliqué, c'est sur de la vidéo flux. Donc quand tu sors une vidéo random sur ta chaîne YouTube, un truc que tu as écrit, tu as publié, enfin voilà, tu as monté, tu as publié, est-ce que ça fonctionne? Et comment est-ce que c'est un contenu qui est bon? Et donc là, le premier prisme qu'on va utiliser les gens pour répondre à cette question, c'est bon, ben, un bon contenu, c'est un contenu qui plaît aux gens. Ça, pour moi, c'est le pire des pièges. Parce que si tu suis religieusement, de façon très focus, cette direction-là, donc faire des trucs qui plaisent aux gens, ça va toujours t'emmener vers les mêmes trucs. Parce que malheureusement, ce que les gens veulent, c'est pas ce dont les gens ont besoin. Et je fais mon petit enculeur de mouche philosophe. Ce qui est intéressant, en fait, pour moi, le vrai but d'un contenu, qu'il soit sur YouTube ou pas, c'est de donner aux gens ce qu'ils ne savaient pas qu'ils voulaient, comme un DJ. Je vous en ai déjà parlé, ça me semble familier, donc ça veut dire que j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Et en fait, vous voyez que quand vous regardez YouTube, parfois, vous savez, en fait, on sait les vidéos qui font des vues, on a tous un petit peu des idées. D'une vidéo qui, c'est sûr que ça va faire des vues. Et souvent, en fait, c'est une mauvaise idée d'aller vers ce genre de vidéo-là. Ça va toujours être les mêmes vidéos, tuto, je sais pas quoi, 7 astuces pour, comment devenir riche. Je sais les sujets qui feraient péter ma chaîne YouTube. Mais après, la vraie question, la raison pour laquelle je le fais pas, c'est parce que ça m'intéresse pas de faire péter ma chaîne YouTube. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ma chaîne YouTube développe mon business et surtout que je prenne du plaisir à produire du contenu. Et donc, pour ça, il faut réussir à faire autre chose, c'est-à-dire pas donner au jeu, enfin, pas faire ce que les gens veulent. Pour moi, c'est un piège. Mais faire quelque chose qui est unique à toi-même assez longtemps pour que ça trouve un public. Alors évidemment, c'est très facile à dire parce que quand tu publies une vidéo qui sort de ta tête et que ça bide et qu'en plus tu te prends des commentaires de merde, c'est chiant. Mais ton travail, c'est de donner aux gens ce qu'ils ne savaient pas qu'ils désiraient. Je vais vous prendre un petit exemple. Vous connaissez peut-être la chaîne Marketing Mania. Marketing Mania, il y avait plein de contenus sur le marketing qui existaient. Ce qu'il a trouvé en faisant sa vidéo, et la raison pour laquelle ça marche bien, c'est toujours c'est que ça a matché ce que lui savait faire, donc des vidéos d'analyse, son background, il a fait des secs, etc., business en ligne, copywriting et tout, des vidéos très bien écrites. Ça a matché ses compétences uniques avec un nouveau format, une nouvelle façon de présenter le marketing. Donc une vidéo d'analyse où il va prendre un sujet très random, très bateau, et le regarder avec un angle, avec des yeux de marketeur. Ce truc-là, tu peux pas, en fait, tu peux pas aller voir quelqu'un qui consomme du contenu marketing en 2015, je sais pas quand est-ce qu'il s'est lancé, et lui demander qu'est-ce que tu attendrais comme contenu et qui n'existe pas aujourd'hui sur Internet. Tu peux pas faire ça. Tu es obligé de faire avec des itérations. Et comme on est sur une plateforme personnelle, c'est-à-dire que les gens connectent avec des gens, il faut aller puiser profond en toi, donc quitter, et pas avoir peur de le montrer aux gens. Donc, sinon, en fait, ça donne... Vous voyez, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'il y a des chaînes YouTube, ce sont des copies. Il y a des centaines de chaînes YouTube, c'est toutes les mêmes. Je trouve aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui se trouve dans les tendances, en fait, c'est toujours la même chose. C'est toujours, c'est les mêmes vidéos. Et ce qui est très dur, c'est de réussir à créer. Et j'ai un petit extrait d'ailleurs de Vincent Cassel que je vous passerai dans la partie sur le meilleur de la semaine, où il explique comment est-ce que un genre, comment on appelle ça, un genre un peu original de cinéma, ou enfin comment est-ce qu'un nouveau courant peut percer et devenir mainstream. Putain, j'ai pas envie d'empiéter. Non, je vous laisserai l'extrait pour qu'il soit stylé. Je vous en parle pas là, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est toujours se poser la question. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que cette pendule s'appelle « Est-ce que tu consommerais ton propre contenu ?» C'est parce que c'est la meilleure façon de répondre à cette question-là. Comment savoir si un contenu est bon, bah, est-ce que moi, je le consommerais ? Et si toi, en fait, si tu fais ça assez longtemps, tu vas finir par trouver l'intersection entre ce que toi, tu consommerais, ce que ton audience va vouloir consommer. Et c'est comme ça que tu crées des trucs profondément uniques. Et ça peut prendre des années. C'est ça qui prend énormément de temps. C'est de trouver son format. Voilà, je pense à une autre personne aussi qui me vient en tête qui illustre bien ça, c'est celui qui s'appelle Ferry, là, Victor Ferry ou un truc comme ça, celui qui fait des vidéos de rhétorique en décryptant l'actualité, enfin toujours en rebondissant sur des trucs d'actu. Je trouve ça très cool. Voilà, et donc c'est la question au-dessus là, est-ce que tu consommerais ton propre contenu? C'est un excellent guide, surtout c'est et quelle est ta limite acceptable? Parfois tu peux faire, c'est ça le paradoxe, des contenus qui marchent mais que tu ne consommerais pas, et c'est là quand tu fais trop de fois des contenus comme ça, tu te perds. Voilà les amis. Point de numéro 5. Quelle est la différence entre un champion à la française versus un champion à l'américaine? Bon, ça évidemment, vous savez d'où ça me vient. C'est les discussions avec Cédric. Et je voulais vous faire un petit exercice intellectuel. Quelle est selon vous la différence entre cette première catégorie de champions, qui est composée d'Antoine Dupont, de Kylian Mbappé ou de Cyril Gane, et cette seconde catégorie de champions, qui est constituée par Cédric Doumbé ou Cristiano Ronaldo? Alors, sans savoir ce que je vais vous dire, vous avez peut-être un sentiment assez différent quand vous imaginez ces deux champions-là. Il y a peut-être que vous aimez plus que d'autres. Mais en tout cas, ils n'ont pas du tout la même façon, ils n'ont pas eu du tout le même chemin et la même façon de parler de ce qu'ils font. Un champion français, on va toujours s'attendre à ce qu'il soit humble. Un champion, il doit pas être arrogant. Il doit être aussi très très lisse. C'est-à-dire éviter de froisser le moins de personnes possible. Par exemple, un truc marrant, c'est qu'un champion français, il n'a jamais le droit de dire qu'il est bon. Je trouve ça assez fascinant. Parce que sinon, on va dire « Ah, arrogant, etc. et » tout. Mais en fait, si le mec est bon et il dit qu'il est bon, quel est le problème? Est-ce que c'est le problème de Kylian Mbappé? Ou est-ce que c'est ton problème avec tes insécurités et de toi qui es nul et qui regarde ça depuis ton canapé avec des chips molles? Parce que t'as réouvert un paquet de la veille. Grosse merde. Bah moi, je pense que c'est pas le problème du champion. À l'inverse, un champion US... donc américain, il a le droit de dire à peu près ce qu'il veut. La discipline de trash talk, c'est un truc qui existe très très peu en France, mais il a le droit d'annoncer qu'il est le plus fort, et ça c'est une énorme différence. En fait, il y a une notion américaine parce que Cristiano Ronaldo n'est pas américain, mais c'est un champion qui est américain dans la construction et dans les valeurs. Il y a une notion de show. Un champion aux États-Unis doit faire le show. Les basketteurs, les mecs qui font du foot US, les gens du baseball aussi, c'est la même chose, il faut faire le show, il faut annoncer, il faut vendre. Il faut vendre la carrière sportive. Et les plus grands sportifs aujourd'hui dont on se rappelle, c'était des experts de marketeurs. C'est des gens qui gazaient de ouf. Mohamed Ali, les amis. Mohamed Ali, c'est un expert du marketing. S'il n'avait pas ouvert sa gueule comme ça, personne ne s'en rappellerait. Ça serait un boxeur parmi d'autres. Même s'il est... Parce qu'en fait, à un moment, c'est plus juste une affaire de skills techniques. Les champions américains, ils acceptent qu'il y a deux façons de briller. Être bon techniquement, mais tu peux ajouter un multiplicateur qui est la hype et l'exploitation de l'image du champion. Et ça, c'est stylé. Enfin, je trouve ça très, très cool de l'utiliser pour grossir. finalement, c'est l'équivalent du produit et du marketing. En fait, voilà. Putain, c'est ça. J'avais même pas noté dans ma fiche, mais les Français n'aiment pas le marketing. Les Français détestent le marketing. Ils disent ils pensent, sans le dire, qu'un produit doit faire sa propre pub. Voilà. Donc, il n'a pas le droit de faire marketing. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que les Français, ils percent pas aux US. Parce qu'ils refusent de faire du marketing. Et c'est des très beaux champions. Hein. Moi, Antoine Dupont, c'est un mec putain, je le trouve vraiment respectable, tu vois, ce gars. Mbappé, bon, vous savez mon amour pour lui, Cyril Gane, même chose, hein, qui fout la MMA. C'est des gens que j'aime bien, mais c'est des gens qui n'ont pas fait le jeu du show à l'américaine. Je trouve ça très marrant. Donc, en fait, la conclusion, c'est que les champions américains, ils sont beaucoup plus aussi antifragiles que les Français. Donc, antifragile, c'est au sens de Nassim Taleb. Ça veut dire que plus on essaie de les détruire, plus ils deviennent forts. Et donc, c'est l'inverse, en fait, avec un champion français. Un champion français, il est tellement lisse, en fait, que dès que tu l'attaques, ils sont là. Oh, comment ça, il n'est pas lisse? Comment ça, il n'est pas parfait? Regardez l'histoire du char à voile avec Mbappé. Ou alors, même juste Cyril Gane qui perd un combat. Il perd un combat contre John Jones, qui est genre le GOAT du MMA. Bon, ça se passe très très vite, il se fait étrangler. Mais il a pris une vague de rage derrière, mais qui est indécente, en fait. Ça veut dire que, en fait, ce qu'ils ont construit, la hype, l'amour des gens, etc., tout est extrêmement fragile. Et à côté, aux US, tu as genre McGregor. Qui va jeter un transpalette sur le bus de Khabib. Bon, il va être jugé en justice, mais il continue à combattre, hein, y a pas de problème. Et donc, ça, en fait, je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, parce que, bah, après, voilà, c'est des champions qui sont peut-être moins admirables. C'est quel exemple pour les jeunes, diraient les Français, en tout cas pour un McGregor. Mais je trouvais que c'est deux façons de construire un champion qui sont très différentes. Et moi, je n'aime pas, en fait, de base, la mentalité de cacher son succès. Souvent, je vous disais, c'est le problème des autres, hein, qui voient dans votre succès leur échec. Toujours ça. Alors en fait, on s'en branle. Soyez vous-même et comprenez bien aussi qu'à partir d'un certain niveau de succès, pardon, c'est très compliqué, enfin, c'est même impossible d'avoir personne qui te déteste. Donc fais juste en sorte d'avoir les bonnes personnes qui te détestent, pas avoir des gens que t'aimes bien. Et il y a un truc que j'avais beaucoup aimé qu'Oussama avait dit après s'être pris la shitstorm là, de quand le truc était sorti dans la presse, hein, sur les 3 millions et tout. Il avait dit, je l'avais demandé, je crois. Est-ce que ça lui a fait quelque chose, une question très standard en fait, hein, voilà, de se prendre autant de shitstorm sur la gueule. Il avait dit écoute non, parce que l'amour des gens sur internet, je n'y ai jamais cru. J'avais trouvé ça très sage, parce qu'en fait on peut prendre la métaphore, on peut la filer avec vous qui écoutez ce podcast. Vous passez peut-être un bon moment ou pas, enfin si vous êtes encore là, c'est que visiblement ça ne doit pas être trop désagréable dans les oreilles, mais le jour où il m'arrive une merde, je me prends un scandale, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, vous allez tous disparaître. Il va rester 1% des gens. Donc, je suis très content de pouvoir vous livrer ça. Mais il ne faut pas que je m'y trompe. Je n'ai pas le droit, en fait, de conditionner mon bonheur à l'amour que vous me portez. Je n'ai pas le droit. Je suis très content de vous produire du bon contenu. Je le fais avant tout pour moi. Mais je n'ai pas le droit d'y croire à tous ces trucs-là. Et c'est là où, en fait, les gens prennent la grosse tête. Ils croient que parce qu'il y a marqué 54 000 abonnés sur YouTube, il y a 54 000 personnes qui, toute la journée, pensent à eux. Ils se disent « Ah, putain, c'est incroyable. » Il ne faut surtout pas croire à son propre sketch. Et pourquoi et comment je recoupe sur mon sujet champion français, champion à l'américaine, ben, je sais plus. Ouais, je pense que vous comprenez qu'à choisir, j'aimerais bien plus me situer du côté du champion un peu antifragile. Donc ça veut dire quelqu'un qui n'est pas trop lisse, qui a l'habitude un petit peu de créer des mini-polémiques, mais qui du coup le rendent plus fort. C'est un petit peu comme, vous savez, les gens, je pense à ça, puisqu'il y a une scène comme ça dans Kingsman, le dernier, là, où en fait ils essaient de buter un gros russe. Avec du poison, mais en fait le mec il prenait du poison tous les jours et du coup il est rendu insensible. Et je crois que c'est un nom ça d'ailleurs, le fait de créer un petit peu des mini traumas pour que derrière finalement le grand trauma te fasse plus rien au fur et à mesure. Donc désensibilisation progressive, c'est pas ça le nom, mais ça doit avoir un nom scientifique. Donc voilà, je préférais avoir un truc un peu plus solide dans le temps, pas avoir une marque trop lisse. Et enfin voilà, inspirez-vous des champions à l'américaine parce qu'on est en France et du coup ça sort directement du lot quand il y a une personne qui fait ça. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire vos Cédric Doumbé. Mais n'ayez pas peur, voilà, d'avoir des gens dans le camp en face de vous. Pendule numéro 6. Donc, alors, la pendule numéro 6, elle est un petit peu spécifique parce que pour le coup, je vais vous lire un petit texte qui a été écrit par mon associé, qui s'appelle Paul, dans lequel il parle de la morale d'esclave. Je n'ai pas trouvé de meilleure façon de le formuler que la façon dont il l'a écrite, ce qui est bon signe. Je l'ai traduite en français puisque ce salaud de start-upper écrit en anglais. Et donc, je voulais vous parler de ça, donc je vais vous lire le petit passage et le commenter après. Enfin, le petit passage, il est assez long. Je bois une petite gorgée parce que sinon, je vais pas arriver jusqu'à la fin. Alors, Donc, c'est issu de sa newsletter qui s'appelle Solve, S-O-L-V-E. Et c'est l'épisode sur la morale de l'esclave. Are you a slave, je crois que ça s'appelle. Donc, Friedrich Nietzsche voit le monde comme une scène où s'affrontent des forces. Au sein de cette scène, certains hommes sont avantagés, grâce à leur capacité physique et mentale, tandis que d'autres sont désavantagés. Certains sont forts, d'autres sont faibles. Et le faible est à la merci du fort, comme un lapin à la merci d'un oiseau de proie. Les faibles rejettent cette vision de la confrontation des forces. C'est là où ça commence à devenir intéressant. Ils ne veulent pas affronter, pardon, les forces supérieures. Ils savent qu'ils seraient perdants, alors ils ne jouent pas le jeu. Ce que Nietzsche appelle la morale de l'esclave est une stratégie des faibles pour se protéger des forts. Cette morale qualifie de bonne la faiblesse et l'oppression. Et elle associe la culpabilité à des actions qualifiées de mauvaises, comme l'exercice de la force, par exemple. Donc ce que ça veut dire, en fait, donc petit entracte dans la lecture, c'est que c'est une stratégie de survie du faible de faire culpabiliser le fort. De lui dire « Ah non, mais n'utilise pas la force contre moi, c'est un truc de lâche, etc. » On continue, c'est pas ça la leçon que je vais vous faire passer. D'une manière générale, la morale impose des limites au comportement humain. La morale, donc en gros la morale c'est quoi? C'est le désigner le bien ou le mal. Et selon qui la désigne, c'est pas la même chose. Je reprends. La morale d'esclave consiste à limiter l'usage de la force et à paralyser l'effort par la culpabilité qu'il devrait ressentir. La culpabilité est le seul moyen d'empêcher l'effort d'exprimer leur force. Le faible est conscient de son infériorité et doit donc recourir à des stratagèmes. Le point de vue de Nietzsche est que la morale est fabriquée par l'homme. Elle n'est pas inhérente à la nature de l'homme. C'est un outil, une arme psychologique pour encourager certains comportements ou en décourager d'autres. Donc en gros, pour y avoir, je ne sais pas si mon ton est assez différent pour vous compreniez quand est-ce que je lis, quand est-ce que je ne lis pas. Là, je ne lis pas. Je voulais vous dire quoi, voilà. Il n'y a pas une morale. Quand c'est le faible qui fait la morale, c'est une version. Et quand c'est le fort qui fait la morale, c'est une autre version. Si cette morale d'esclave se généralise, les faibles gagnent. Et donc, le faible devient dominant. Si les forts ne peuvent plus utiliser la force, ils deviennent faibles. Le problème est que le but de cette morale n'est pas d'éliminer l'usage de la force, c'est là où ça devient extrêmement intéressant, mais de renverser les forts. Au fur et à mesure que cette morale se répand, son but final se dévoile et devient de plus en plus clair. Elle justifie toute forme de violence. Les massacres perpétrés au nom de l'égalité sont innombrables. Donc là, il cite beaucoup de massacres. L'Holodomor, le règne de la terreur pendant la Révolution française, la Révolution culturelle chinoise, le génocide cambodgien des Khmers rouges. Tout ça, c'était au nom de l'égalité. Il ne s'agit pas ici de dire que vous ne devriez pas vouloir l'égalité ou la justice. Le fait est que vos motivations profondes ont de l'importance. Vouloir l'égalité pour voir tout le monde lutter et être... Pardon. Vouloir l'égalité pour voir tout le monde lutter et être vraiment heureux est complètement différent de vouloir l'égalité pour abattre ce qui semble avantageux. Et ça va être ça la conclusion sur laquelle on va revenir à la fin. Je termine la lecture, on est bientôt au bout. Lorsque vos motivations sont la jalousie, le ressentiment, l'animosité envers quelqu'un d'autre, vous êtes faible, vous êtes un esclave. C'est ça la putain de leçon. L'esclave se définit par son désir de détruire le fort. Les forts, quant à eux, se concentrent sur leur épanouissement personnel. Ils ont une relation proactive avec le monde et sont indifférents aux faibles. Alors que le faible est toujours en train de réagir. Il a besoin du fort pour exister. Le pire, c'est que la morale d'esclave est une impasse. Elle est mortifère, elle ne peut mener à rien d'autre qu'au chaos. Dernier paragraphe. Cependant, le faible peut cesser d'être un esclave lorsqu'il abandonne ses motivations, les motivations pardon, de son action basées sur le ressentiment. L'identification de ce qu'il pourrait devenir, non pas par rapport à quelqu'un d'autre, mais en termes d'absolu, est la voie de l'élévation pour les faibles. C'est la voie à suivre pour devenir réellement fort. Il ne s'agit pas d'essayer d'abaisser ou de nier les autres, mais de s'élever soi-même. Je trouve que ce passage est d'une grande sagesse. Je ne suis pas surpris en même temps, je sais qu'il a écrit. Mais je trouve que voilà, bon, y a énormément de leçons dans ce qu'il raconte. Et j'en tire plusieurs. La première chose, c'est faites attention à vos motivations. C'est très facile quand on commence à entreprendre de le faire pour vouloir détruire quelqu'un. Malheureusement, vous l'aurez compris que ça, c'est la morale d'esclave. C'est le fait de faire quelque chose pour la tête sur laquelle il y a la couronne et pas la couronne. C'est très très différent de vouloir l'un ou l'autre. Ensuite, voilà, donc vous avez compris, le seul truc à changer dans votre vie, c'est essayer de vous délecter le moins possible de la défaite d'un adversaire, ou de la défaite de n'importe qui d'ailleurs. Ne soyez pas content de la défaite des autres, sinon vous êtes encore une fois un esclave. Troisième chose, abandonnez la faiblesse, devenez le fort. Donc renforcez-vous pour ne pas avoir à utiliser ces mécanismes de culpabilité par rapport au fort. Donc devenez le fort. Et quatrième chose, quand vous serez devenu fort, ne vous laissez pas déstabiliser par le faible. Et pour ça, je vous renvoie à un conseil que je vous ai donné il y a beaucoup de fois. N'acceptez pas une critique d'une personne dont vous n'accepteriez pas un conseil. Donc là, vous savez que c'est monnaie courante hein, de quand tu commences à réussir, parce que c'est ça en fait, finalement tu commences à devenir un peu fort quand tu as de la réussite dans plus ou moins, enfin dans n'importe quel secteur. Et là, tu as tout à coup tous les pouilleux là, les ratons qui commencent à venir filer leur avis sur ce que tu fais. Ah mais non, mais tu devrais pas faire ça, tu devrais être un boss comme ça et en fait LinkedIn est rempli de ça. LinkedIn, c'est la morale d'esclave. C'est je ne suis pas patron, mais je vais t'apprendre comment être un patron. Et tu devrais faire ça, et puis tu devrais monter ton entreprise comme ça, et puis etc. Je déteste ça. C'est infernal, c'est souvent lié à du signalement de vertu. Donc c'est horrible. Donc la leçon de ça, c'est en plus d'aller lire solve.ism, la newsletter de Paul, c'est ne soyez pas un esclave, soyez un fort, et ne vous souciez pas voilà, du faible. C'est ça. Et c'est très difficile à faire. Moi, je ne suis pas du tout irréprochable sur cette partie-là. Donc, je ne vous dis pas que vous êtes une merde si vous ne le faites pas. Mais en tout cas, le but de façon de ce podcast, c'est de stimuler des réflexions dans vos têtes. J'espère que ça vous aura permis de le faire. Numéro 7. Pendule numéro 7. J'ai bien fait mon compte. C'est ça ou pas? Oui, c'est la pendule numéro 7. Voilà. Comment gérer les sujets sur lesquels vous n'avez pas d'opinion? Bon, on va rentrer dans la vie perso, là. Est-ce que je suis obligé? Bon, vas-y, nique sa mère. Bon, pas, j'ai pas de réflexion, de toute façon, j'aurais dû y penser avant. Bon, je voyais une meuf qui m'a cassé les couilles. qui m'a cassé les couilles avec de la politique à un moment. Bon, je l'ai pas vu très longtemps. Hein. Mais il y a un moment, dans la discussion est partie sur de la politique. Et c'était que des phrases qui commençaient par « Tu ne penses pas que… » dans 1000 versions différentes. Et en gros, le point qu'elle soulevait, c'était « T'as pas le droit de pas avoir d'opinion sur la politique. » Et vous savez, souvent, vous ressentez que quelque chose vous dérange avant de savoir pourquoi. Donc, je me suis demandé pourquoi. On va poser ça, après l'avoir bloqué. je rigole. Bon, après, bref, j'ai pas passé un très bon moment, donc j'ai... Putain, mais pourquoi je m'en bats les couilles, en fait, c'est pas du tout ça l'objectif. Voilà, bref, est-ce qu'on doit avoir une opinion sur tout? Est-ce qu'on doit avoir une opinion sur tout, les amis? Et ça m'a fait penser à une petite citation. Je me souviens plus de l'auteur, c'est « La plupart des gens n'ont pas d'opinion avant qu'on leur demande une. À ce moment-là, ils en choisissent une et passent le reste de leur vie à essayer d'être cohérents avec. » Bah voilà, moi j'ai pas trop envie que ça m'arrive, ce genre de choses-là. Donc mon opinion, c'est que non, on n'est pas obligé d'avoir une opinion sur tout. Je vois deux raisons principales. La première, c'est que je trouve que pour qu'une opinion soit intéressante, je pense que j'enfonce une porte ouverte en disant ça, il faut qu'elle soit renseignée. Et moi, j'aime bien avoir des opinions pertinentes et fondées sur de la data, sur quelque chose sur lequel je suis convaincu de dire quelque chose d'intéressant. Malheureusement, je n'ai pas ce temps à passer sur tout. Et donc, je le privilégie sur les sujets sur lesquels je peux avoir le plus d'impact. Et donc, quelqu'un qui en fait, décide d'avoir une opinion sur tout et qui pense que tout le monde devrait avoir une opinion sur tout, et principalement, en fait, ce qui est encore pire, parce que ce que disait la personne, là, c'est « Moi, j'aurais pu lui demander, c'est quoi ton avis sur Facebook Ads versus Google Ads ?» Bon, elle ne sait pas. Ok, et ben moi je trouve que tout le monde devrait avoir un avis là-dessus. Bon, vous voyez, je grossis le trait, évidemment, il y a de la nuance entre les deux. Mais ce qui est encore plus problématique, c'est, voilà, c'est de penser que ce qui est intéressant pour moi, enfin ce qui me concerne, doit forcément te concerner. Ça, c'est dangereux, en fait. C'est très très dangereux comme mentalité. Donc, j'ai pas ce temps à passer sur tous les secteurs, donc j'admets que je vais avoir une opinion qui sera pas pertinente sur pas mal de secteurs. Ensuite, seconde chose, la plupart de ces sujets politiques, en particulier, c'est des choses qui sont hors de mon contrôle. Vraiment. J'essaie d'y attribuer le moins d'énergie possible parce que le ROI est faible. On n'a pas l'énergie de formuler une opinion sur tout. Donc je vais privilégier les trucs sur lesquels formuler une opinion va provoquer un changement d'avis dans ma vie. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ça le grand problème. La raison pour laquelle je ne parlerai jamais de politique dans mes contenus, c'est que je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose sur lequel j'ai un grand impact. Enfin, le fait de m'intéresser au truc, donc consommer les news, me faire happer par le sketch, là, produisent une grande différence dans ma vie. Et parce que pour qu'elle en produise, il faut quand même qu'il y ait pas mal de choses qui soient réunies. Enfin, je peux en produire beaucoup plus à côté, beaucoup plus de véhicules. J'ai beaucoup d'autres véhicules de changement dans ma vie que celui-là. Notamment ma boîte. ma boîte, YouTube, etc. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses qui rendent ma vie meilleure. Et donc, bref, tout ça pour dire que c'est un sujet, et la plupart voilà, des sujets sur lesquels on va vous demander de positionner, souvent, en fait, vous dites, mais vous pouvez répondre à la personne, mais pourquoi? Pourquoi tu veux que j'ai un avis là-dessus? Je m'en branle, c'est pas impossible d'avoir un avis sur tout. Et tout ça, en fait, demande juste d'avoir un petit peu de courage. Et c'est le courage de dire « je ne sais pas », qui implique de foutre un peu l'ego de côté. Parce que, en fait, sur le coup, tu te sens un peu con quand tu dis « je ne sais pas » et que tu as une discussion vous savez, qui s'envenime un petit peu, qui commence à devenir un peu intense. C'est ça le mot, intense sur, je sais pas, le féminisme ou je sais pas quelle partie politique de mon cul. Bah, toujours, tu te sens un peu con de pas avoir d'opinion, parce qu'il y a quelqu'un qui va te dire, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je sais pas, j'en pense pas grand-chose, en fait, je m'en bats les couilles, vraiment, je m'en fous. Et là, en fait, les gens, tu reconnais les extrémistes, donc les gens un petit peu embrigadés, parce que c'est des gens qui vont être outrés que tu n'aies pas d'opinion sur le sujet. Non, mais c'est un sujet de société, ça concerne tout le monde, etc. et tout. Mais en fait, ton combat n'est pas mon combat, mon ami. Donc choisissez vos batailles. Et je trouve ça beaucoup plus sage. Et en fait, finalement, tu signales l'inverse. Quelqu'un qui a une opinion sur tout, c'est quelqu'un qui bah, est surfacique sur tout. Voilà. On ne peut pas crier superficialité plus fort que ça. Voilà, numéro 7. Numéro 8. Bon, alors, j'ai déjà un petit peu dit dans les pendules précédentes, pardon. Il s'appelle « Montrer votre brouillon ». Bon, en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu une maxime de vie pour moi, donc je voulais vous en parler, parce que monter une boîte, souvent, ça t'apprend que tu ne peux pas être perfectionniste. C'est assez dur de passer beaucoup de temps à réfléchir quelque chose. Et donc, finalement, ce qui est très simple, c'est comment résumer ça de façon simple, disons. Le meilleur moyen d'avoir un truc parfait, c'est de sortir un truc pas parfait et d'avoir beaucoup de retours dessus. Donc, ça fait que souvent, tu vas, par capillarité ou un peu effet de halo, tu vas avoir tendance à, quand ça a bien marché pour monter ta boîte, de faire ça, de lancer vite et de recevoir beaucoup de feedback, et tu l'appliques à toutes les autres aires de ta vie. Et ce qui fait que, de manière générale, j'ai remarqué, ou on m'a fait remarquer aussi, bon, les deux, je ne sais plus exactement, que souvent, les gens avaient l'impression que je montrais mon brouillon. Et ce podcast, je pense que c'est l'exemple parfait. C'est un brouillon, en fait. Ce n'est pas du tout une copie rendue. Ma copie rendue, elle est sur YouTube. Mais ce n'est pas pour autant que le brouillon n'est pas intéressant. En fait, j'attends pas que les idées soient parfaitement formées dans ma tête pour en parler. Et je sais pas si vous avez déjà fait l'exercice d'essayer d'écrire un essai, ou même un post LinkedIn, ça marche aussi d'ailleurs, et où tu étais persuadé dans ta tête que l'idée, elle était claire. Et en fait, tu commences à écrire, tu te rends compte que l'idée, elle n'est pas claire du tout. Qu'il y a plein de trucs auxquels tu n'avais pas pensé, que ça ne marche pas, enfin du moins, c'était un peu des standards sur la qualité du contenu que tu postes. Et donc, en fait, finalement, avoir foutu ton idée sur papier... et essayer de l'avoir, parce que d'ailleurs quand tu la soumets au monde, en plus tu chopes les feedbacks des gens, donc ce qui est hyper précieux pour améliorer une idée, il n'y a rien de mieux. Eh bien, tu l'as rendu bien meilleure, ton idée, bien plus solide. En fait, tu reçois beaucoup plus de feedback intéressant de la part du réel que d'améliorations que tu ne pourras produire, de par ta réflexion. Et donc, d'ailleurs, je me suis noté quelque chose. Sur les pendules à l'heure, par exemple, je vous en mets, je sais pas, 9 ou 10, enfin entre 7 et 10 dans chaque épisode, je ne sais pas laquelle vous plaît le plus. J'ai aucune fonctionnalité qui me permet de le faire. Donc, il va y avoir un petit sondage. C'est pour ça que j'hésitais sur le sondage d'avant, là, sur les 7 vérités, là, vous demandez ce que vous pensez de la vidéo, parce que j'ai noté. C'est que je voulais aussi vous poser cette question-là, c'est laquelle des pendules à l'heure vous avez trouvé la plus intéressante. Parce que moi, ce truc-là derrière, c'est une idée que je peux faire maturer et retravailler et en faire un truc beaucoup plus poussé, où je vais regarder les exceptions, je vais essayer de trouver des exemples. Je vais en faire une belle vidéo YouTube ou un bel essai, un beau post LinkedIn beaucoup plus détaillé. Et j'ai besoin de savoir lesquelles de ces idées vous plaisent aussi, pour en trouver des similaires, par exemple. Si je sais lesquelles vous aimez, dans les épisodes d'après, bon, moi, je vais essayer de trouver des trucs un peu connectés. Et dites-moi, donc en gros, il va y avoir un petit sondage qui va s'afficher. Dites-moi quelle idée vous avez retenue de ce podcast, si vous en avez retenu. Et pourquoi. Voilà. Et ça sera hyper précieux pour moi. Donc en fait, le principe, voilà, pour revenir sur mon idée, qui est de montrer son brouillon, le principe du MVP. Donc vous voyez, minimum viable product, normalement vous savez ce que c'est. C'est exactement ça, c'est de montrer son brouillon. Tu montes ton brouillon avant d'avoir la copie parfaite et tu te fais corriger ton brouillon. Mais sauf que les gens, ils ne se font jamais corriger leur brouillon. Et pourquoi ils ne se font jamais corriger leur brouillon? C'est parce qu'ils ont peur de le montrer. Un brouillon, souvent, c'est dégueulasse. C'est un bout de truc pas forcément compréhensible. Les gens vont dire, ils vont le juger comme si c'était un résultat fini, quoi. Les gens pensent qu'on ne peut publier que des résultats finis. Mais le problème, c'est que si t'expliques, enfin, le truc, pardon, qui est sympa, c'est que si t'expliques aux gens que bah, c'est pas un contenu fini, quoi. C'est un podcast en freestyle dans lequel je prends mes notes, je les partage et vous aimez pas, et peut-être que ça vous évoque des idées, et bah, les gens sont assez compréhensifs. Et tu chopes un avantage de plus parce que tu peux, en fait, au lieu de pouvoir montrer que tes résultats finis, donc la copie parfaite, la disserte bien écrite, et bah, tu double, triple, quadruple la quantité de contenu que tu peux montrer aux gens. Et ça fait que les idées à la fin sont plus intéressantes. Et donc finalement, ton brouillon va pouvoir devenir plus intéressant que des copies finies d'autres personnes. Voilà. Toc, 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 toc. Est-ce que j'avais des dernières idées à vous partager? Ouais, la conclusion, c'est quoi? Je l'avais écrite, c'est ce qui fait progresser la qualité des idées, c'est pas la réflexion prolongée, mais la diversité des points de vue. Malheureusement, si vous gardez l'idée dans votre tête, vous n'avez que le vôtre de point de vue. Donc, partagez vos idées avant d'être sûr qu'elles soient terminées. Et on va terminer avec deux choses. Mais attends, mais j'en ai complètement 10. Hein, je vous ai dit 9. Non, j'en ai 10 en fait. Des pendules. Et on va parler du coach et du meilleur ami. C'est ça ma pendule. Bon, là, c'est une idée qui est très standard. Enfin, c'est une idée qui est très répandue. Et une question que se posent beaucoup de gens, c'est comment est-ce qu'on résout le dilemme entre il faut être très dur avec soi-même pour obtenir des très gros résultats et il ne faut pas s'auto-flageller parce que ça rend triste. Eh bien, j'ai un petit extrait d'une newsletter, je crois que c'est James Clear qui l'a écrite, que je trouvais hyper éclairante sur le sujet. Il nous dit « Lorsque vous êtes en plein travail, fixez vos attentes à un niveau élevé. Il est peu probable que vos performances dépassent le niveau que vous vous êtes fixé. Des attentes élevées vous encouragent à poursuivre vos efforts et à réaliser votre potentiel. Une fois le travail terminé, libérez-vous de vos attentes. Le moyen le plus rapide de gâcher un bon résultat est de se dire qu'il n'est pas assez bon. Vos attentes déterminent votre bonheur plus que vos résultats. Les attentes peuvent être utiles en tant que source de motivation, mais inutiles en tant qu'instrument de mesure. Maintenant que le travail est fait, vous pouvez vous reposer sur vos lauriers en sachant que vous avez fait de votre mieux, vous avez déjà gagné. » Et ben là, le frérot, il m'a résolu le dilemme. C'est très simple. Et c'est quoi l'idée générale de ce petit passage? C'est que les attentes ne servent pas à définir ce que vous pensez qui va se passer dans le réel, ce que la réalité va vous donner. Mais ça sert à choisir quel plan d'action tu mets en place. Si ton objectif, c'est d'ici 6 mois de peser moins 10 kilos versus peser moins 2 kilos, c'est pas du tout le même plan d'action que tu vas mettre à disposition. Et donc, l'attente fixe le plan. Et surtout qu'en fait, le problème, c'est que tu peux pas utiliser tes attentes pour juger le résultat du truc, parce que le résultat du truc, c'est quoi? C'est le poids sur la balance. Le poids sur la balance, je vous apprends rien, ça peut être dépendant de plein de choses, il peut être arrivé plein de trucs. Et c'est pas forcément toujours indicatif de est-ce que tu as suivi le plan. Des attentes, en fait, ça va toujours être basé sur de la merde. Là, par exemple, vous voyez, quand je mets mes objectifs de vues, je vais faire 50 000 d'écoutes. Je vais faire 50 000 écoutes, mais putain, mais j'en sais rien, en fait. Je prends la courbe, je mets un truc au hasard. Mais ce qui est important, c'est juste que je vais mettre en place les trucs pour que ça puisse potentiellement se mettre sur une tendance comme ça. Et c'est à ça que ça sert, une attente. Et ça sert à rien, en fait, de l'utiliser pour juger est-ce que tu as réussi quelque chose ou pas. Donc, par exemple, moi, je m'entraîne comme un porc pour le semi, mais imaginons que je rate mon objectif d'une seconde. Je n'ai même pas encore bien défini mon objectif, d'ailleurs. Est-ce que je suis malheureux? Bah non, en fait. Finalement, j'ai fait l'entraînement pour atteindre le truc. Bah tant pis, c'est passé plein de trucs. Je vais forcément être déçu de ne pas avoir fait ma performance, mais je serai content de moi d'avoir suivi le plan d'entraînement. Et ça, vous vous rendez pas compte, en fait, ça paraît extrêmement simple quand on l'explique, mais il faut vraiment être world class pour l'accepter, ce truc-là. Ça me fait toujours penser, d'ailleurs, à l'injustice qui est un truc genre... Enfin, le sport, de manière générale, c'est tellement injuste, ce truc. Il y a une tellement grande variance. Par exemple, la finale de la Coupe du Monde, vous allez être contre l'Argentine. Vous voyez que ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, mais à tout moment. Et en fait, dans l'histoire, on ne retiendra que les gagnants. On ne retiendra pas que ça a été serré, on va remater le match. Mais à la fin, il y aura marqué quoi? Les gens vont juste retenir, l'Argentine est championne du monde en 2018. 2022, pardon. Et c'est pour ça que c'est très dur. C'est que ça joue sur un petit truc, tu vois. Tu avais l'attente d'être champion du monde. Et c'est très très dur quand tu perds ta finale, de se dire, écoute... Je suis déçu, mais je ne vais pas laisser ça ruiner mon bonheur. J'ai mis tout en place pour y arriver. Et donc, toute la difficulté de ça, c'est trouver une façon d'être son propre meilleur ami et à la fois son coach le plus exigeant. Et pour moi, ça résume ce truc-là. Donc, je vous le récapitule. Fixer des attentes très hautes au début, à très hautes mais réalistes, parce que sinon, ça fait l'effet inverse, vous allez abandonner très vite. Très hautes mais réalistes. Et séparez-vous-en pour juger la qualité pour votre bonheur, quoi, simplement. Et on passe à la toute dernière. Pendule à l'heure, c'est le père et le leader, ça s'appelle comme ça. J'ai appelé ça comme ça. Je trouve mieux. J'aimerais bien les faire en aphorisme, mes titres de partie. Les aphorismes, du coup, c'est des punchlines, ça serait stylé, ça vous aiderait à vous en rappeler, mais ça demande un peu de réflexion d'écrire des trucs courts. Ça prend du temps d'écrire des trucs courts. Et donc, c'est une citation de Joseph Chilton Pierce, qui est un auteur d'ouvrages sur le développement de l'enfant, qui rappelle aux parents et à tous les dirigeants, entre parenthèses, une vérité importante. Ce que nous sommes enseigne à l'enfant bien plus que ce que nous disons. Et nous devons être ce que nous voulons que nos enfants deviennent. Je ne vous dis, Enfin, je vous le dis, il n'y a qu'un seul travail pour le leader, c'est de montrer le changement qu'il veut voir arriver dans le monde. Beaucoup plus efficace que de dire aux gens de changer. J'ai rien à rajouter là-dessus. Je suis content que la citation illustre des trucs dont j'avais déjà parlé. Voilà. On passe au meilleur de la semaine et ensuite, on va pouvoir se quitter 1h20. Putain, j'arrive vraiment plus à faire des épisodes de moins d'une heure. Mon Uber Eats arrive dans 12 minutes. Ça va le faire. Ok. Bien, j'avais deux contenus à vous partager. Le premier est extrait d'un podcast de Chris Williamson, qui s'appelle Modern Wisdom. J'ai trouvé ça très très cool. Il utilisait un petit framework pour prendre des meilleures décisions. Il disait « What would your tomorrow you want you » On dirait François Hollande. « Be you want you to do » Non, bref, what would your tomorrow you want today you to do? Ça veut dire, qu'est-ce que la personne que tu seras demain aurait envie que le toi d'aujourd'hui fasse? Et bien en fait, tu peux pas te tromper quand tu es honnête avec la réponse à cette question. Je trouve ça stylé parce que ça cut toutes les décisions pulsions que tu vas regretter. T'arrives devant un McDo, t'es en sèche, et le toi de demain, il sera content ou pas? Parce que le toi d'aujourd'hui, tu sais qu'il va, il va être très content, hein. Il va être très très content d'avoir bouffé son McDo. Demain, tu vas penser quoi? Et plus tu arrives à prendre des décisions pour le toi de demain, plus tu creuses l'écart avec tous ces bâtards qui vont dans la pulsion immédiate. Je trouvais ça très stylé, très simple et très efficace. Et on va terminer avec un petit passage de Vincent Cassel que je vous ai chargé. Hop là. Ah ben non, je ne voulais pas charger. Si, il est là. Voilà, super. On va l'écouter nous raconter quelque chose sur l'innovation.
Principalement, et on commence à monter des spectacles et là où et c'était un mec qui avait mon âge plus ou moins et donc là on commence à faire des trucs et je sens que
là il y a du plaisir.
Ouais, et puis je suis dans un truc qui est de mon parce que j'ai toujours eu ce truc de il faut être dans quelque chose de son époque. Tu vois, c'est-à-dire que le métier comme on dit n'est pas quelque chose que tu dois intégrer. En tout cas, c'était mon point de vue, c'est quelque chose où tu dois déplacer le centre d'intérêt, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais quelque chose un peu en dehors mais qui devient tellement bien qu'au bout d'un moment...
Ça devient la norme.
Voilà. Mon père me disait, un jour, il faudra quand même que tu rentres dans la cour des grands. Et je lui répondais, t'as pas compris, la cour, elle reste, les grands, ils passent. Eh oui.
La cour, elle reste, les grands, ils passent. Putain, qu'est-ce qu'elle me parle. Qu'est-ce que ça me parle, ce genre de choses-là. Et ça me parle évidemment par rapport à l'univers concurrentiel des agences. J'espère que dans 10 ans, on trouvera ça ridicule que tous les CEO d'agences n'est pas de chaîne YouTube. On se rappellera de cette époque tendrement qu'on disait et qu'on dira mais putain, mais en fait c'était ça depuis le début. Toutes les agences, il fallait percer sur les réseaux sociaux en fait. Au lieu de me prendre pour un petit rigolo, ils verront bien. Les amis, c'est la fin de cet épisode de Road to Tech Mignonne. Je vous embrasse et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aller mettre une petite note pour qu'on atteigne ce challenge. Bisous à tous.